Ce message s'intitule « Qui dites-vous que c'est ?»
Now the question comes up out in the wilderness. Here's where it brings, see now I want you to watch my brethren. Now remember, these people enjoyed that blessing. They enjoyed the preaching of this prophet, this anointed one. They believed him. They followed him. But there rose up in the wilderness one by the name of Dathan and one by the name of Korah. And they said, this has got to be a one-man affair. Moses thinks he's the only one God called. That one-man message, they didn't want it. No, they didn't want it. And God never did deal but with one person at a time. It's always a one-man message. When did ever he deal with the people outside of just one person? It's an individual. It ain't a group.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
She meets my specification in every way. She's a lovely Christian. She looks like one. She dresses like one. She acts like one. She lives like one. I'll admit she'd make me a good wife, but she isn't mine. So I take her for mine. That's the way the message is. You can sympathize with it and say it's right, but you've got to take it yourself to become part of it. Then you and the message become one. And the anointing's with you, as it is with the others. Now, Satan, he didn't believe it. Dathan, he got Dathan and them not to believe it. Caused all of them to perish. But you say, wait a minute, Brother Branham. You said three, Moses, Joshua, and Caleb. That's exactly right, what they were. But here you only say two. You say here that there was you said the supernatural Satan, but there was supernatural God, too, anointing these three. Now, Satan's only an arm, but the other one's coming. The other one's coming. Just watch for a few minutes. He comes on the scene. His name's Balaam. He's a money-loving prophet, so-called prophet, false prophet. There's all kinds of prophets. And always with Israel and along with the group, there was always prophets and
Bonjour, mes amis. Je considère vraiment comme un privilège d'être ici dans cette église. Et pour commencer, j'aime son nom. Elle s'appelle le nom de Jésus. J'aime ça. Et je réalise que c'est le nom par lequel j'ai été racheté, ce merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et aussi d'être ici avec mes bons amis rassemblés à Phoenix en ce merveilleux dimanche matin. Je ne connais pas d'endroit où je préférerais être si ce n'est dans la gloire avec vous tous. Et c'est le grand événement auquel nous nous attendons. J'ai été appelé ici pour un malade aujourd'hui. J'en ai parlé à frère Outlaw, mon cher ami, et il m'a invité si gentiment à venir ici. Tous les pasteurs de Phoenix ont été vraiment bons pour moi. Je me demande parfois pourquoi j'ai déménagé à Tucson. Je suis là-bas depuis 3 ans et je n'ai jamais été invité à aucune chaire. Ainsi, je pense que je devrais plutôt venir rendre visite ici à Phoenix, où je me sens le bienvenu. Mais peut-être s'habitueront-ils un jour à moi. Vous savez, j'ai prêché là-bas un soir dernièrement et j'ai prêché pendant 3 heures. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne m'aient pas demandé de revenir. Mais j'ai une telle sympathie dans mon cœur pour Dieu et son peuple, et je suis si lent, j'ai peur d'oublier quelque chose et de ne pas apporter assez, que je mets 3 ou 4 messages en un. Alors certainement, à vous qui étiez là-bas, je vous demande de m'excuser de vous avoir gardé si longtemps. Je n'aurais pas dû le faire. Ce matin, je suis aussi content d'être ici avec frère Carl Williams et le jeune Jimmy, le cœur et mes amis les frères Mosley. Je vois Brad, frère John Charrette, et de nombreux amis, frère Pat Tyler du Kentucky, et tant d'amis, simplement pour être réunis ce matin dans cette assemblée. Vous savez, j'ai remarqué ici beaucoup de mes amis de Tucson et d'ailleurs. Je pense au jour où, lorsque tout ceci sera passé, Nous nous réunirons là où nous n'aurons jamais à nous arrêter d'écouter cette belle musique. Voyez-vous, je viens d'apercevoir le fils de frère Williams qui se tient là derrière et qui a rendu témoignage l'autre soir à la Ramada Inn. Je crois qu'il mesure presque 1m80. Mais je vous dis qu'après ce témoignage, je crois qu'il mesurait 3 mètres. J'ai vraiment apprécié ce que ce garçon a dit. C'était un témoignage si merveilleux. Quand j'entends ces braves garçons témoigner de leur foi qui est fondée en Christ, sachant que je me fais vieux et qu'un jour, je devrais arrêter et partir à la maison. Ainsi, quand je vois venir ces jeunes qui sont prêts et se préparent à prendre la relève, c'est ainsi que nous faisons. C'est ainsi que la vie est faite. Une génération se lève, père et mère, ils élèvent leurs enfants et les voient se marier. Puis viennent les petits-enfants, et au bout d'un certain temps, papa et maman descendent dans la poussière. Va alors le temps où les enfants sont prêts à avoir des petits-enfants, puis ils s'en vont. Mais un de ces jours, il y aura une grande résurrection générale. Nous serons tous appelés dans la présence de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a donné, Jésus-Christ. Ainsi, je suis content de savoir que j'ai vécu en cette génération avec des gens si merveilleux que j'ai rencontrés dans le monde entier. J'en suis reconnaissant à Dieu, et un jour, lorsque je serai appelé à comparaître, je devrai rencontrer les œuvres que j'ai faites. Je désire qu'elles soient toutes à la gloire et à l'honneur de Dieu. Alors que nous approchons de l'an nouveau, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir oublier. Mais je sais que je lui ai confessé qu'elles étaient fausses et les a mises dans la mer de l'oubli. Elle ne s'en souviendra plus jamais. Voyez-vous, nous ne sommes pas faits de cette manière. Nous nous souviendrons toujours. Nous pouvons nous pardonner les uns les autres, mais nous ne pouvons pas oublier, parce que nous sommes faits différemment. Mais Dieu peut pardonner et oublier. Il peut l'effacer comme si cela n'avait jamais existé. Vous voyez, parce qu'il a accès à cette mer de l'oubli et pas nous. Pensez donc à ça. Dieu ne peut pas même se souvenir que nous avons une fois péché. Pensez-y, vous le cœur, vous, jeunes gens, qu'en dites-vous? Dieu ne se souvient pas même que nous avons une fois péché. Voyez, il peut oublier toute l'affaire, elle ne reviendra jamais à la mémoire. N'est-ce pas quelque chose? Ce n'est pas un endroit pour plaisanter, je ne crois pas qu'il faille plaisanter à... Cela me rappelle un de mes amis, il est dans la gloire maintenant. Mais il m'a raconté une fois une petite histoire au sujet d'un couple qui avait déménagé en ville, venant de la campagne. Ce jeune couple avait un vieux père, elle était vraiment bouillant pour Dieu. Or, la jeune femme, c'était son père, s'était mise à fréquenter la bonne société, vous savez, où il y avait toutes sortes de réceptions. Elle devait avoir une réception chez elle ce jour-là. Lorsqu'il avait mangé, son papa prenait la Bible et allait dans la chambre pour lire un moment. Il finissait par la poser et il pleurait, s'exclamait, criait et ainsi de suite. Puis il se levait, remettait ses lunettes et recommençait à lire. Puis trouvant quelque chose, il posait ses lunettes et commençait à pleurer et à s'exclamer. Elle dit, cela interromprait ma réception. Alors il faut que je fasse quelque chose avec papa. Et je ne sais pas que faire. Alors elle décida de le faire monter à l'étage au-dessus. Mais elle se mit à penser, voyons, je ne peux pas lui donner sa Bible, parce qu'il ferait la même chose là-haut. Alors elle se contenta de lui donner une vieille revue de géographie. Elle envoya à l'étage au-dessus. Elle dit, papa, regarde les images prises dans le monde et tout cela, pendant que nous avons la réception. Elle ajouta, nous ne ferons pas trop long, tu redescendras au bout d'un moment. Elle dit encore, « Je sais que tu ne veux pas te trouver avec toutes ces femmes. » Il dit, « Non, c'est en ordre, chérie, je vais monter. » Alors, elle lui installa une lampe et un petit coin. Elle pensa, « Voilà, c'est réglé. » Il va regarder gentiment les photos et lire un peu de géographie. Il descendra au bout d'un moment et tout sera bien. Alors qu'elles étaient en train de boire leur limonade rose, vous savez, au cours de leur réception, au bout d'un moment, la maison se mit à trembler. Et le vieil homme commença à courir à travers l'étage en poussant des cris et en sautant. Elle pensa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'avait pourtant pas la Bible, là-haut. Il doit avoir mis la main sur une Bible. Alors elle monta les escaliers en courant et dit, « Papa, ce n'est pas la Bible que tu es en train de lire, c'est une revue de géographie. » Il répliqua, « Je sais, chérie, je sais, mais dit-il, tu sais, l'autre jour, j'étais en train de lire dans la Bible le passage où Jésus dit qu'il avait mis nos péchés dans la mer de l'oubli, tu sais, et qu'il ne s'en souviendrait plus. Et dans cette revue de géographie, j'ai lu qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à trouver le fond de la mer à certains endroits. Pensez donc qu'ils cherchent encore. » Cela le rendait heureux. Ainsi, vous pouvez trouver Dieu partout où vous regardez, voyez-vous, si vous regardez simplement autour de vous, tout vous parlera de lui. Franchement, j'ai dit à frère Outlaw, de quoi vais-je parler ce matin? Avez-vous donné votre message de Noël? Il a répondu oui. J'ai dit, votre message du Nouvel An? Non. J'avais préparé quelques points pour le cas où je serais invité quelque part à donner mon message du Nouvel An. J'ai pensé que je devrais le laisser pour faire Outlaw la semaine prochaine. Alors j'ai pensé que je reprendrais peut-être un petit texte qui pourrait retenir notre attention pendant quelques minutes, Dieu voulant. Et nous croyons qu'il nous bénira. Je veux remercier frère Outlaw et l'église ici de m'avoir invité à venir parler. Comme frère Outlaw l'a dit, notre amitié ne s'est jamais ternie, car la grâce de Dieu nous a gardés pendant toutes ces années. Amen. La première église où j'ai été invité et où je sois venu fut à Phoenix. Je sais, je crois que je suis en train de regarder frère Troy ici. Je ne suis pas sûr, assis devant. Est-ce juste frère Troy? Je crois qu'il était là à cette époque. Il m'avait donné quelques petits objets, des objets fondus ou quelque chose de ce genre. Vous savez, de petits objets en cuivre fabriqués ici où vous habitez. Et en regardant autour de vous, je me demande ce que ce sera ce matin-là. Lorsque nous traverserons, vous savez, que nous verrons ces gens et qu'on dira, « Eh bien, voilà !» Vous savez, nous aurons alors un aspect si différent de celui que nous avons maintenant. C'est vrai, nous n'aurons plus ni marque de péché, ni âge avancé, nous serons parfaits. Oh, j'attends avec impatience le jour où tous les soucis seront passés. Pas vous? Maintenant, je sens que j'ai un message de la part de Dieu. Et je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête, et si je n'exprime pas mes convictions, vous ne pouvez pas avoir confiance en moi, parce que je serais plutôt un traître ou un hypocrite, et je désire être tout sauf ça, vous savez. Il se peut que je perde quelques amis sur cette terre, mais je veux rester fidèle à mes convictions, à ce que je pense être juste. Il y a quelques années, c'était très facile lorsque je commençais. Il y avait les signes, le message, la prédication, partout des bras étaient ouverts. Venez, 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 venez. Mais vous savez, tout signe authentique venant de Dieu a un message, une voix. Voyez, cela se suit. Si ce n'est pas le cas, Dieu ne donne pas des choses comme ça juste pour le plaisir de les donner. Il envoie quelque chose pour attirer l'attention sur ce qu'il va dire. De même que nous avons les merveilleux cantiques qu'a chanté ce cœur, à quoi cela a-t-il servi? À tranquilliser les gens en vue du message qu'allait suivre. C'est ce qu'un signe fait. Moïse eut les signes dont nous avons parlé l'autre soir, et ces signes avaient des voix. Lorsque la voix parla, Jésus alla aussi guérir les malades. Il était un grand homme, mais lorsque le temps vint où ce prophète qui était sur la terre, on n'en avait pas eu depuis 400 ans, et le voici qui était sur la terre, en train d'accomplir des signes. C'était alors un type bien, tout le monde le voulait. Mais lorsque le message qui suivit ce signe, la voix, lorsqu'un jour il déclara, « Moi et mon Père sommes un », oh là là, alors ce fut différent. Ils ne voulurent pas ça, vous voyez. Et pourtant, le monde est ainsi, mes amis, vous voyez, tout ce qu'ils peuvent recevoir et dont ils peuvent se servir, vous voyez, tant qu'ils sentent que ça ne les dérange pas, ils le font. Mais lorsque le moment vient où ils doivent changer leurs idées sur quelque chose, c'est alors que les difficultés surgissent. Maintenant, voyez-vous, nous sommes en train de construire un immeuble, non pas un mur. Les bâtisseurs veulent prendre une série de blocs et aller tout droit. Or, n'importe quel bâtisseur peut construire ça. Mais il faut vraiment un maître maçon pour faire un angle. Vous voyez, lorsque vous faites l'angle, c'est le moment où l'on voit si vous êtes vraiment un maçon ou pas. Lorsque vous pouvez faire l'angle tout en gardant la continuité du reste de l'immeuble. Ceci pour passer l'angle. C'est à ces angles que surgissent les difficultés. Les constructeurs veulent continuer à bâtir sur une ligne droite. Mais nous ne sommes pas en train de construire un mur, mais un immeuble. Nous approchons de ceci ce matin. Priez pour moi et je prie toujours pour vous. Maintenant, inclinons un instant nos têtes dans la présence du grand Jéhovah Dieu. Nous réalisons notre insuffisance, chacun de nous. Et il n'y en a pas un parmi nous ici qui ne soit pas dans le besoin. Je me demande, pendant que nous prions, si quelqu'un parmi vous a un besoin particulier. Vous savez, le Dieu infini, comme je l'ai dit l'autre jour ici à Phoenix, à la Réunion, c'est comme la télévision, cela vient. Christ est ici dans la salle maintenant, voyez-vous. Chaque mouvement que vous faites, chaque fois que vous battez des cils, cela ne meurt jamais. Cela se trouve dans les ondes de l'éther de l'air. La télévision ne fabrique pas ça. Elle capte simplement cette onde que vous produisez, elle la reproduit sur un écran. Quoi qu'il en soit, elle est là. Elle a toujours existé. Tous les mouvements que vous avez faits sont encore en vie dans l'air. Maintenant, vous voyez ce que nous allons être au jugement. Ainsi, Dieu est ici de la même manière. Nous ne le voyons pas de même que nous ne voyons pas ces images de télévision. Il faut un certain tube ou une sorte de cristal pour capter la voix et reproduire l'image. C'était ici, lorsqu'Adam était sur la terre. Mais c'est seulement maintenant que nous le découvrons. Dieu est ici ce matin, et un de ces jours, pendant le millénium, nous allons le réaliser. Cela sera plus réel que la télévision ou ces choses qui étaient ici à la réunion ce matin. Maintenant, pendant que nous pensons à cela, gardez dans votre cœur ce dont vous avez besoin et levez simplement la main vers lui. Voulez-vous faire ça? Dites Seigneur, et dans votre cœur, pensez à la chose. Père Céleste, nous n'avons qu'une possibilité d'approche, c'est la prière. Et nous venons au nom du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes de prononcer ce nom, de l'utiliser. Nous pensons nullement en être dignes. Mais nous avons été invités à le faire. Et sachant qu'il a dit, si vous demandez au Père quoi que ce soit en mon nom, je vous l'accorderai. Et nous sommes, si seulement notre foi peut s'appuyer là-dessus, sachant qui il est et que c'est sa parole, alors nous serons sûrs d'obtenir ce que nous demandons. Tu as vu toutes les requêtes, tu as vu ma main, tu connais ma requête. Père, je te prie pour chacun d'eux, que tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, je ne crois pas qu'un groupe comme celui-ci puisse demander quelque chose de mal. Ce serait quelque chose pour l'avancement de leur royaume, ce pourrait être pour leur propre guérison, et en faisant cela, ils aimeraient, ou leur propre entendement, ils aimeraient cela afin de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Je te prie, ô Dieu, de donner suite à la requête de chacun. Bénis cette Église, son pasteur, ses associés, les diacres, les administrateurs, tous ses membres, les visiteurs, les étrangers. Ce ne sont pas des étrangers, Seigneur. Nous sommes tous tes enfants par grâce et par Christ. Et nous te prions de nous donner ce matin le pain de vie, afin que nous puissions partir d'ici avec la certitude que les requêtes que nous t'avons adressées nous ont été accordées. Bénis la parole, Seigneur, alors que je la lis. Aucun homme n'est capable ni apte à interpréter cette parole. J'en vis le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône, et ne se trouva personne au ciel, sur la terre ou sous la terre, qui fut digne même de regarder le livre. Mais l'un des anciens dit, « Voici le lion de la tribu de Juda vaincu. » Pensant voir un lion, Jean vit un agneau immolé, un agneau ensanglanté qui s'avança, prit le livre, monta sur le trône et s'assit. Et toutes les célébrités du ciel retirèrent leur couronne, s'inclinèrent et surent qu'il était digne. Seigneur, nous prions afin qu'il vienne au trône de nos cœurs ce matin. Qu'il monte et prenne position, possession de chacune de nos pensées. Qu'il prenne la parole et nous parle, afin que nous en sachions davantage au sujet de lui et dans son plan dans nos vies. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, si vous voulez prendre la Bible et l'ouvrir à... Le passage des Écritures se trouve dans Matthieu, chapitre 21. depuis le, je pense que nous allons lire le 10e et le 11e verset du chapitre 21 de Matthieu. Ayez la gentillesse lorsque vous rentrerez à la maison, et si vous ne l'avez pas encore fait pendant ces jours de congé, de lire tout ce chapitre. Il est très bon, tout est bon, ceci particulièrement pour cette saison, avec le message que j'espère le Saint-Esprit me permettra de vous apporter ce matin. Relevez alors que nous lisons le 10e verset, le 11e. « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Maintenant que Dieu veuille bien ajouter à sa parole le contexte se rapportant à notre lecture dans les Écritures. Nous savons de quel moment il s'agit, et beaucoup parmi vous connaissez bien ce chapitre des Écritures. Il traite effectivement du jour où Christ entra à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Une légende dit que c'était un âne blanc. J'imagine que c'est en préfiguration de sa seconde venue sur un destrier. Le prophète a dit que cette fois, votre roi vient à vous sur un ânon humble et doux. C'est ainsi qu'il est venu, sur un petit âne, un petit porteur de fardeau. Mais la prochaine fois qu'il revient de la gloire, au 19e chapitre d'Apocalypse, il vient comme un puissant vainqueur, son vêtement trempé dans du sang, assis sur un cheval blanc et toute l'armée des cieux le suivant sur des chevaux blancs. Et la légende, ce n'est ni scripturaire ni historique, mais la légende croit qu'il était sur un petit âne blanc lorsqu'il entra dans Jérusalem. Maintenant, j'ai choisi ceci parce que nous sommes à l'ombre de, à l'époque de Noël et du Nouvel An. La fin d'une année ancienne est l'arrivée d'une nouvelle. Dans quelques jours, beaucoup de gens tourneront une nouvelle page, feront de nouvelles choses et formeront de nouveaux vœux. C'est le commencement d'une nouvelle année. Et cela ne me fait pas tellement penser à Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais j'appelle toujours ça la Saint-Nicolas. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Cela n'aurait pu être l'anniversaire de Christ, absolument pas. Il devait naître en mars ou avril, parce qu'il était l'agneau. C'était un mouton mâle, né sous le signe du bélier. Il devait en être ainsi, voyez-vous, et de toute manière, les moutons ne naissent pas en décembre. Les moutons naissent au printemps. D'autre part, sur les collines de Judée, il y a maintenant 6 mètres de neige. Comment les bergers auraient-ils pu s'y trouver ? Cela vient donc vraiment de la mythologie romaine où c'était l'anniversaire du dieu soleil. Depuis le solstice d'hiver, les jours s'allongent de plus en plus et les nuits se raccourcissent. Et entre le 20 et le 25 décembre, c'est l'anniversaire du dieu soleil, d'après la mythologie romaine. Puis leur dieu, ainsi on célébrait l'anniversaire du dieu soleil. Et lorsqu'il rédigea la constitution de l'Église et de l'État, Constantin dit, nous allons changer ça, sans savoir quel jour c'était, et le fixer à l'anniversaire du Dieu Soleil, et ce sera l'anniversaire du Fils de Dieu. Vous comprenez? Mais nous ne savons pas quel jour c'était. Mais maintenant, on a tellement retranché ce qui se rapportait à Christ, que l'on a réintroduit la mythologie d'une certaine créature qui, soi-disant, vécut sous le nom de Saint-Nicolas ou Kris Kringle, qui est un personnage tiré de la mythologie germanique. Et tout n'est qu'un mythe, et Christ ne s'y trouve pas du tout. Et les gens se sont mis à acheter du whisky, à jouer à l'argent et à suivre la mode. Un commerçant qui peut vendre sa marchandise à Noël peut presque vivre du produit réalisé pendant le reste de l'année. Vous voyez, ce sont de telles fêtes commerciales, et de pauvres gosses dont les parents n'ont pas les moyens de leur offrir de cadeaux, comme venant de Saint-Nicolas, descendent la rue, leurs petites mains sales et les yeux rougis. J'ai horreur de voir ça venir. Ce devrait être un jour solennel où l'on adore Dieu, plutôt qu'un jour apportant chagrin, maux de tête au milieu de tout ce qu'on y fait. Il n'y a là rien se rapportant à Christ. Mais nous sommes en plein là-dedans maintenant. Nous nous retrouvons comme ils étaient à l'époque. Vous voyez, c'est le commencement maintenant d'une grande fête. Jésus venait pour la fête de la Pâque. Il était entré à Jérusalem, ou plutôt il entrait à Jérusalem. Et les prophéties concernant tout ce qu'il allait faire devaient s'accomplir. Tout ce qui est dans la Bible a un sens, tout nom a un sens. Il n'y a rien d'écrit dans les Écritures qui n'ait une profonde signification. L'autre soir à Tucson, j'ai parlé de pourquoi fallait-il que ce fût des bergers plutôt que des théologiens. Il naquit à côté de l'Église. Et le Saint-Esprit sortit loin dans le désert et choisit non pas des théologiens, mais des bergers. Il devait en être ainsi. Les théologiens n'auraient pas cru un tel message. Ce devait donc être des bergers. Il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai prêché ici sur le sujet « Pourquoi fallait-il que ce fût la petite Bethléem ?» Dieu voulant, Noël prochain, j'aimerais prêcher sur « Pourquoi fallait-il que ce fût les mages ?» C'est pourquoi on le répond ici dans la Bible. Nous vivons une époque extraordinaire, l'époque la plus glorieuse de tous les âges. Nous vivons le moment où le temps peut s'arrêter à tout instant et où l'éternité peut s'installer. Tous les prophètes et les sages, dans leur âge, se réjouirent en attendant cela. Nous devrions être à toute heure sur nos gardes, guettant sa venue. En ce Noël-ci, nous nous trouvons comme eux lors du premier Noël. Le monde est en train de s'écrouler. Comme je l'ai prêché une fois quelque part à propos d'un message de Noël, le monde qui s'écroule. Le monde est à nouveau sur le point de se disloquer. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis que Dieu fera sombrer cet endroit avant la venue du Seigneur Jésus. Je crois qu'Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer. Et il y a tellement de péchés, voyez-vous, c'est la barrière. La civilisation a voyagé avec le soleil. Elle est partie de l'est pour aller vers l'ouest. Et maintenant, elle est sur la côte ouest. Si elle va plus loin, elle sera de nouveau à l'est. Ainsi, c'est la barrière. Or, le péché a voyagé avec la civilisation. Elle devient le cloaque de tous les âges. Ils font des choses auxquelles les êtres humains d'aucun autre âge n'auraient pensé. Les femmes se sont jetées aujourd'hui dans une corruption telle qu'aucune femme en aucun âge n'aurait jamais pensé à une chose pareille. Et nous nous appelons pourtant chrétiens. Quelle disgrâce! Ce n'est pas étonnant que le grand prophète se soit levé et qu'il ait dit, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais il a dit, le lion a rugi et qui ne serait effrayé? Et l'Éternel a parlé et qui peut s'empêcher de prophétiser? Vous voyez, un appel à sortir doit retentir. Nous sommes à une heure critique. Le monde s'y trouve. Mais l'Église, la vraie Église, pas la dénomination, mais l'Église elle-même, est prête pour le plus grand triomphe qu'elle ait jamais remporté, la venue de l'époux vers l'épouse. Nous sommes en train de nous disloquer, en attendant un Messie, quelque chose qui doit venir nous sauver et nous tirer de tout cela. Nous regardons loin, nous voyons les troubles à l'Est, nous regardons l'Afrique, et nous voyons les soulèvements, les problèmes raciaux, l'intégration et la ségrégation. Et il n'y a pas longtemps, nous, nos amis de couleur, faisions du tapage, et nous nous exclamions à propos de « nous devons avoir l'intégration, c'est ce dont nous avons besoin, nous devons avoir l'intégration, chaque homme égal, chaque homme empreinte, c'est parfaitement juste, je ne crois pas en l'esclavage. L'appel à sortir doit retentir. Nous sommes à une heure critique, le monde s'y trouve. » Mais l'Église, la vraie Église, pas la dénomination, mais l'Église elle-même, est prête pour le plus grand triomphe qu'elle ait jamais remporté, la venue de l'époux vers l'épouse. Nous sommes en train de nous disloquer, en attendant un Messie, quelque chose qui doit venir nous sauver et nous tirer de tout cela. Nous regardons loin, nous voyons les troubles à l'Est, nous regardons l'Afrique, et nous voyons les soulèvements, les problèmes raciaux, l'intégration et la ségrégation. Et il n'y a pas longtemps, nous, nos amis de couleur, faisions du tapage, et nous nous exclamions à propos de « nous devons avoir l'intégration, c'est ce dont nous avons besoin, nous devons avoir l'intégration, chaque homme égal, chaque homme empreinte, C'est parfaitement juste, c'est parfaitement juste. Je ne crois pas en l'esclavage. Ces gens n'étaient premièrement pas des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. Dieu est un ségrégationniste. Moi aussi, n'importe quel chrétien est un ségrégationniste. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Il choisit une nation, il choisit un peuple. C'est un ségrégationniste. Il a fait toutes les nations. Cependant, un véritable chrétien authentique doit être ségrégationniste. Il doit se séparer des choses du monde, de tout, et en venir à un but, Jésus-Christ. Mais ils crient ça. J'ai essayé de leur dire, ce n'est pas ce qui va sauver notre nation, ce n'est qu'une machination politique qui est d'inspiration communiste. Je crois que Martin Luther King va conduire son peuple à la plus grande tuerie et au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Et voyez-vous, cela ne va pas réunir le monde, ça ne va pas nous sauver, nous leur avons donné l'intégration, maintenant c'est pire que jamais. Voyez, là n'est pas la question. Il n'y a qu'une chose qui le puisse, c'est Dieu. Amen. Elles ne veulent certainement pas cela. Ils ne voulurent pas de lui à l'époque. Ils étaient en train de s'écrouler. Leur politique se disloquait, leur nation se déchirait. Leur église était en train de se désagréger. Ils imploraient la venue d'un Messie. Ils le voulaient. Oh, envoie-nous un Messie. Mais lorsqu'il vint, Dieu répond à votre prière. Vous avez demandé et vous recevrez. Et c'est, je pourrais m'arrêter à ça pendant des heures. Et parler d'hommes et de femmes, même chrétiens, qui prient pour quelque chose. Et quand Dieu leur donne la réponse, ils ne la reconnaissent même pas. Or, Dieu leur donna la réponse. Ils voulaient un Messie. Ils savaient qu'ils avaient eu des Césars, des David, des Salomon, les hommes sages. Ils avaient eu des David, les puissants guerriers. Ils avaient tout eu. Mais ils savaient qu'ils devaient recevoir de l'aide du ciel, et Dieu leur avait promis un Messie. Elle leur envoya ce Messie en réponse à leur prière, mais ils ne voulurent pas de lui. Je me demande aujourd'hui si nos prières, vous les entendez dire, priez pour un grand réveil, priez pour ceci, priez pour une effusion, priez pour l'unité. Je me demande si Dieu envoyait un tel programme, nous l'accepterions. Je me demande simplement si nous accepterions ce qu'il nous envoyait, ce qu'il nous enverrait. Vous voyez, la raison pour laquelle nous prions pour ces choses, c'est que nous savons que c'est nécessaire. Mais lorsque Dieu l'envoie de la manière qu'il veut, alors ça ne correspond pas à notre goût, et c'est pourquoi nous ne voulons pas le recevoir. Et il en fut ainsi en ce temps-là. S'ils n'étaient pas au goût de leur croyance, ils n'ont de nouveau pas voulu le recevoir aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils ont posé cette question. Qui est celui-ci? Qui est cet individu qui vient? Voyez, c'était un moment très particulier. Or, tout le monde était sous tension. Quelque chose était sur le point d'arriver. Et regardez le monde aujourd'hui, dans quelle tension le monde entier vit. Descendez dans la rue, on n'est même pas en sécurité lorsqu'on conduit. On n'est pas en sécurité sur nos autoroutes à quatre pistes. Tout le monde est tendu, hargneux. Qu'y a-t-il? Tranquillisez-vous. Où allez-vous? C'est ce qui fait que les établissements psychiatriques se remplissent. C'est ce qui a mis l'Église dans un tel désordre. Ils sont tellement butés pour certaines choses. Ils ne veulent pas s'arrêter et considérer la parole de Dieu et l'heure à laquelle nous vivons. Ils sont tous sous l'effet d'un tel surmenage, d'une telle tension. Maintenant nous savons, nous sommes au courant. La terre vient de passer par de grandes douleurs d'enfantement. Et l'Église passe par des douleurs d'enfantement. Elle devait traverser les douleurs de l'enfantement avant de pouvoir donner la venue au monde de chacun des prophètes fut une douleur d'enfantement pour l'Église. Le monde a passé par une première guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, et maintenant, il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est à nouveau dans les douleurs de l'enfantement, mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix. C'est Christ. Amen. Tous nos projets, nos idées, nos raisonnements ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science, etc., il était prouvé que c'était un non-sens. Alors nous prions Dieu de nous aider, d'intervenir, de venir faire quelque chose pour nous. Et lorsqu'il le fait, je me demande si nous sommes capables de le comprendre, si nous sommes capables de le recevoir, ou même prêts à le considérer. C'est ce qui fut fait en ce temps-là. Ils avaient prié, ils avaient eu toutes sortes de grands conducteurs, ils avaient été sous des gouvernements, ils avaient été sous la royauté, ils avaient été sous tous les systèmes, les juges, mais ils savaient qu'il n'y avait qu'une chose susceptible de les sauver, c'était la venue du Messie. Et le Messie signifie « loin », un être humain qui était loin. Ainsi, l'être humain, loin par la parole. La parole faite chair parmi nous. Et lorsqu'il vint, il n'était pas exactement comme il le voulait. Il n'était pas à leur goût. C'est pourquoi ils crièrent, « Qui est cet individu ? Pourquoi tout ce tapage ?» Une poignée de paysans se trouvait là-bas, à la porte, coupant des palmes, et « Allons, faites-les se tenir tranquilles, ils nous énervent avec leur façon de crier, de s'exclamer, de se comporter. » Il dit, « S'ils se taisent, ces pierres crieront immédiatement. » Oh, le temps se déroulait. La prophétie s'accomplissait. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, « Le lion rugit, qui ne craindra point. Dieu a parlé, qui peut s'empêcher de prophétiser ?» Non, ce n'était pas exactement à notre goût, ce n'était pas exactement comme nous le voulions, comment, comme nous pensions qu'il devait venir, nous n'étions pas prêts à le recevoir. Ce sont donc leurs crédos qui les écartèrent pareillement de la parole écrite. Ils étaient si éloignés qu'ils ne reconnurent pas celui pour la venue duquel ils avaient prié. Leurs églises les avaient entraînés si loin que lorsque la chose même pour laquelle ils avaient prié se trouva au milieu d'eux, elle ne fut pas à leur goût. Elles ne purent ainsi la croire. Ils durent s'en éloigner. Ils l'évincèrent. Vous ne pouvez faire qu'une chose lorsque vous rencontrez Christ, c'est ou bien l'accepter ou bien le rejeter. Vous ne pouvez jamais repartir neutre. Vous ne pouvez faire cela. Cela ne vous est pas possible. C'est ainsi. Remarquez combien peu reconnurent en lui la parole ointe de ce temps. Voyez, Dieu au commencement était infini et connaissait toutes choses dès le commencement. Et ces choses ne sont que la manifestation de ses attributs. Un attribut, vous avez un attribut, c'est votre pensée. Vous pensez à quelque chose, puis vous l'exprimez, puis vous le prenez. C'est Dieu. Au commencement, il, si vous avez déjà été, ou si vous serez une fois au ciel, c'est que vous avez commencé par y être. Vous êtes une partie de Dieu, vous étiez sa pensée, il connaissait votre nom, il savait qui vous étiez avant même qu'il y eût une molécule, avant qu'il y eût une lumière, avant qu'il y eût quoi que ce soit, il vous connaissait par votre nom. Et il le mit dans le livre de vie avant que le monde fût formé. Vous voyez, vous étiez sa pensée, puis vous devenez une parole. Une parole est une pensée exprimée. Ensuite, vous êtes manifesté. C'est ainsi qu'il était. Au commencement, il était seul. Dieu était seul avec ses pensées. Il ne refera jamais ça, parce que ses pensées sont en train de se manifester. Et c'est pourquoi nous sommes ici en ce jour. C'est que Dieu communie avec ses pensées rendues manifestes. Vous voyez, nous y sommes. Ainsi, vous, par la pensée, ne pouvez ajouter une coudée à votre taille. Vous ne pouvez pas faire ceci, cela ou cette autre chose. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Un point, c'est tout. Maintenant, remarquez combien peu de son temps, comparativement aux millions qui étaient sur la terre, sûr qu'il était ici. Pensez donc, il y avait des dizaines, des millions de gens qui ne surent jamais rien. Et dire qu'en Israël, à cette époque, il y avait 2,5 millions de personnes en Palestine, d'Israélites, et pas même 1% parmi eux ne le surent. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. » Pensez combien ne le reconnurent pas, ne surent pas qu'il était cela, alors qu'ils étaient près de lui. C'est cela qui est pitoyable. Ceux qui marchèrent avec lui, et le virent dans la rue, et ainsi de suite, ne reconnurent pas qui il était, parce que Satan avait fait en sorte qu'il ait le nom le plus déshonorant qui puisse être donné à une personne. Il était appelé par le monde naturel, il était appelé un enfant illégitime, parce que Satan dit que sa mère était enceinte de Joseph avant son mariage avec lui. Ainsi, il le qualifia d'illégitime. Et l'Église l'a à nouveau vu de sa grande puissance manifestée. Manifester quoi? Non pas un credo, mais manifester la parole. Il était lui-même la parole ointe. Et lorsqu'ils virent cela se produire, la manifestation, le Messie oint, ils le rejetèrent. Ils n'en voulurent point. Ce n'était pas à leur goût. C'est cela qui est pitoyable. Combien? Pensez donc à ça. Exactement comme à d'autres époques. Voyez, tous eurent leur propre interprétation de la parole. C'est la raison pour laquelle Israël ne reconnut pas Moïse. C'est la raison pour laquelle le monde ne reconnut pas Noé. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes ne furent pas reconnus. Ils avaient leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, eut son Messie. Vous voyez, rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. Ils étaient les Messies oints pour cet âge. La parole qui était promise pour cet âge. Et lorsque Jésus vint, il fut la plénitude de la parole. Dieu lui-même, fait dans une structure d'homme, en chair et en os. Loin. Ils auraient dû voir cela, mais voyez-vous, leur monde ecclésiastique avait tellement ajouté ici et retranché là, et ainsi de suite. Cela devint tellement confus qu'ils firent confiance à leur Église plutôt qu'à la parole. Et lorsqu'ils virent leur Église ointe, alors ils crurent que quelque chose de grandiose se passait. Mais lorsqu'ils virent la parole ointe, alors ils dirent, c'est du fanatisme, cet homme est un démon, c'est Belzébul. Parce que c'était tellement contraire à leur Église, au credo de leur Église, à ce qu'ils avaient fait. Et il en fut ainsi la venue de chaque prophète. L'Église était chaque fois dans une telle confusion. Dieu envoya ses lois et leur donna une alliance. Et le prêtre venait et retranchait, ajoutait, prenait quelque chose ici et en faisait un credo. Alors Dieu suscitait de nulle part un homme oint qui était élevé dans la puissance de l'Esprit. Elle fut toujours haïe par les prêtres et les rois. Tandis que les faux prophètes portaient leurs vêtements soyeux et marchaient humblement et doucement parmi les rois et les prêtres pour mériter de grands noms et différentes choses, le vrai et authentique prophète venait de nulle part, d'aucune de leur organisation. Où est-il mentionné dans la Bible que Dieu ait une fois pris un prêtre pour en faire un prophète? Où Dieu a-t-il déjà pris un théologien ecclésiastique, un homme instruit dans la théologie, pour en faire un prophète? Il ne l'a fait nulle part dans l'histoire, dans aucun âge. Il doit s'éloigner de ce système et le susciter en dehors de ça. C'est ce qu'il avait fait ici. Lorsqu'il naquit à Bethléem, en Judée, issu d'une famille pauvre, Jésus n'avait pas leur connaissance de passé notoire, si ce n'est qu'il descendait de la tribu de Juda et que ses pères et mères étaient de la lignée de David. Ainsi, il dut aller se faire recenser. Il était là, juste un jeune homme, qui ne faisait que briser les églises. Et le haïrent. Mais ils ne purent pas dire que cet homme n'avait pas fait de miracle. Pierre exprima cela le jour de la Pentecôte par ses paroles, « Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi nous, avec qui Dieu était. » Et non pas pour ajouter à sa parole ou quoi que ce soit d'autre, mais pour la rendre un peu plus claire, c'était Dieu fait chair parmi nous. Amen. Dieu avec nous. Je parlais l'autre soir de Moïse, qui se tenait là, la main dans son sein. C'était Dieu en Moïse, gardant les secrets dans son cœur. Et quand il l'étendit, elle était blanche de lèpre. Puis il la remit dans son sein, la guérit, et l'étendit à nouveau dans notre direction, lorsqu'il envoya le Saint-Esprit. C'était à nouveau Dieu, simplement sous une autre forme le jour de la Pentecôte. Et nous dénigrons cela. Nous n'en voulons pas. C'est ainsi qu'ils agirent à l'époque. C'est probablement ainsi que nous agissons aujourd'hui. Nous voyons que chaque homme a sa propre interprétation. C'est pourquoi c'est si déroutant. Mais vous savez, la Bible dit que cette parole ne peut être l'objet d'aucune interprétation particulière. Elle n'a pas besoin d'une interprétation presbytérienne. Elle n'a pas besoin d'une interprétation baptiste. Elle n'a pas besoin non plus d'interprétation pentecôtiste. Dieu est son propre interprète. Il a dit qu'il le ferait, alors il le fait, et la question est réglée. C'est la raison pour laquelle ils voient la parole de la promesse ointe et qu'ils ne peuvent la recevoir. Vous voyez? Parce qu'elle est contraire à leur credo. L'apparence qu'aurait le Messie, le oint, et ce qu'il ferait, c'était loin de leur entendement. Ensuite, lorsqu'on leur lut dans les Écritures ce qu'ils feraient, ils ne le comprirent toujours pas. Car lorsque les mages vinrent de Babylone, ils étaient au nord-est de Jérusalem, qu'ils descendirent et virent cette étoile conduisant à l'ouest, ils la suivirent pendant 2 ans. Ils franchirent le Tigre, traversèrent les vallées et Shinéar, et arrivèrent finalement à la capitale de toutes les religions. De la plus grande religion du monde, au temple, à Jérusalem. Parcourant les rues, dirent, où est-il? Où est-il celui qui est né roi des Juifs? Eh bien, personne n'en savait rien. C'était étrange. Même le Sanhédrin fut mis en émoi. On appela les docteurs et on leur dit, lisez dans les Écritures où il est dit qu'un Messie. Ils prirent donc les Écritures et lurent que Michée dit que de la Judée, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas la moindre en tes principales villes, car de toi sortira ce gouverneur. Voyez, au lieu de chercher, ils rejetèrent simplement cela. Oh, ce n'est que du fanatisme. Vous voyez, c'est pourquoi les bergers reçurent le message. Voyez, ils ont leur propre interprétation. C'est pourquoi ils manquent la chose véritable. Mais comme toujours, lorsqu'il vint, il vint exactement comme la parole dit qu'il viendrait. Il vint dans la ville, nous l'avons dans notre texte ce matin, exactement comme la parole a dit qu'il viendrait. Elles dirent, qui est-ce? Voyez-vous ce que je veux dire? Ils auraient dû savoir qui il était. Et ici, ce n'est pas le monde extérieur, mais le monde ecclésiastique qui a dit, qui est-ce? Qui est celui-ci? Et pourtant, les Écritures avaient dit clairement que c'était exactement de cette façon qu'il viendrait. Elles dirent, qui est-ce? Qui est cet individu? Pourquoi toute cette animation? Arrêtez de faire tout ce bruit, ça nous énerve. Vous voyez, la chose même pour laquelle ils avaient prié était là, à portée de main. Et ils ne la reconnurent pas. Elle vint exactement comme les Écritures disaient qu'il viendrait. Et s'il vient aujourd'hui, il viendra exactement comme les Écritures disent qu'il viendra. Il vient toujours conformément au goût de la parole de Dieu, et non conformément à l'idée que certains théologiens peuvent avoir à ce sujet. Au fait, saviez-vous que la parole de Dieu n'est jamais venue à un théologien? Trouvez le passage montrant que c'est déjà arrivé. La parole ne vient pas aux théologiens, pas du tout. Mais voyez-vous, si la parole était manifestée aujourd'hui, la parole pour notre temps, elle le serait conformément au goût de la parole de Dieu. Non pas conformément à l'idée de quelqu'un. Dieu prendrait sa parole qu'il a promise pour ce jour, il l'oindrait, et la chose arriverait, c'est tout. Il n'y a pas moyen de l'empêcher d'arriver. Il en sera ainsi, quoi que l'Église dise, et quoi que le reste des gens croient. Dieu le fera, quoi qu'il en soit. Seuls quelques-uns le réaliseront. C'est vrai, seulement très peu. Il en a toujours été ainsi. Voyez, avec leur propre interprétation, ils ne purent rien faire d'autre parce qu'ils adhéraient à ce que l'Église leur avait dit. Mais chaque fois qu'il vient, et tout ce qu'il fait, c'est conforme à la parole. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans ce que les gens disent. Il n'y a qu'une chose dans laquelle vous puissiez mettre votre confiance, c'est dans la parole. Et la parole est Dieu. Et la parole ointe forme le Messie. La parole ointe de l'heure. Comme c'est magnifique. Ils la manquèrent, la parole, le juste, ils avaient, la parole est toujours juste, mais l'interprétation qu'ils en donnaient était fausse. Je me demande si cette grande chose, le conseil œcuménique que nous avons dans le monde aujourd'hui et le conseil mondial des églises se réunissant pour nous faire tous un, je me demande s'ils réalisent que c'est exactement ce que les Écritures ont dit qu'ils feraient. Mais ils croient que c'est la chose la plus merveilleuse au monde, que nous puissions tous joindre nos mains et être un. Ils ont dit, Jésus a prié pour que nous soyons un. C'est vrai, mais pas un comme ça. Il a dit, soyez un comme moi et le Père sommes un. Oui, soyez un comme ça. Et comment cela se réalisera-t-il? La parole et nous serons la parole ointe. Voilà l'unité de Dieu, voyez-vous? L'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Vous voyez? Alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. Nous voyons maintenant que les gens sont pratiquement pareils. Les gens ne changent pas. Ces gens étaient divisés en trois groupes. Nous allons voir cela pendant quelques minutes. Je sais que cela va être un peu tard si c'est en ordre avec vous. Je suis tellement lent. Je ne sais pas. Je m'y mets, j'inscris les passages des Écritures et quelques petites notes. Et lorsque j'arrive là et que le Saint-Esprit en saisit un, c'est comme s'il ne devait pas y avoir de fin. Ça ne fait que continuer. Mais maintenant, revenons à notre texte. Ils étaient là, divisés en trois groupes, avec trois opinions différentes. Certains le croyaient, certains le haïssaient, et certains ne savaient pas que faire. Vous voyez, c'est ainsi. J'ai prêché une fois, je crois, dans cette église sur le sujet croyant, soi-disant croyant et incroyant. Les trois dans le groupe. Vous trouvez ça partout. Ici, il y a également les trois dans le groupe. Nous pouvons voir qu'il y en a toujours été ainsi dans les gens, des gens. Nous pouvons revenir en arrière et prouver que les gens ont toujours été ainsi. Ils ont toujours été dans cet état. Alors, voyant qu'il y en a toujours été ainsi, nous sommes portés à croire que Dieu a désigné des gens pour être ainsi. Eh bien, il amènera son ennemi à le louer. Tôt, en écrivant dans les Romains, chapitre 9, Paul a dit, « Ô âme insensée, l'argile peut-elle dire au potier, « Pourquoi me fais-tu ainsi ? N'a-t-il pas le pouvoir de faire un vase d'honneur et un autre d'un usage vil ? Qu'en serait-il s'il n'avait pas fait de nuit ? Vous n'apprécieriez jamais les rayons du soleil. S'il n'y avait jamais eu que du soleil, vous ne pourriez pas apprécier, pas l'apprécier. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas eu de maladie ? Vous ne sauriez jamais apprécier une bonne santé. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas eu de gens mauvais et pas de femmes mauvaises ? Une femme bonne ne serait pas honorée, vous voyez. L'honneur ne lui reviendrait pas, parce que tout serait pareil, tout serait la même chose. Mais c'est une loi de contraste. Dieu fait les choses ainsi, une pour être vile, afin de mettre en évidence celle qui est honorable. Une pour être tellement fausse qu'elle montre, si elle n'existait pas, ce serait la chose juste. S'il n'y avait pas, il ne peut y avoir de faux dollars, à moins qu'il y ait un vrai dollar. Alors le faux dollar est... Si au début, il n'avait été fabriqué qu'un faux dollar, alors ce serait le vrai. Mais c'est une copie. Il ne peut y avoir de péché s'il n'y a premièrement la justice. Parce que la justice est la chose correcte et que le péché est la perversion de la justice. En d'autres mots, une vérité est une vérité. Un mensonge ne peut être un mensonge à moins qu'il y ait d'abord une vérité, pour pervertir cette vérité en un mensonge. Donc, tous les péchés ne sont rien d'autre que la justice pervertie. Ainsi, il y a un système dans le monde, ou plutôt deux systèmes, l'un est juste, et l'autre est un système perverti. L'un d'eux est la parole de Dieu, qui est juste, et toute parole d'homme est mensonge. Et ce système dénominationnel que nous avons aujourd'hui est en train de constituer un conseil mondial des églises pour faire apparaître une marque de la bête qui les réunisse, c'est la chose fausse. Et les hommes y entrent aveuglément. Dieu a déjà mis sur la terre la chose par laquelle ils pourraient être délivrés. Mais ils croient que ce n'est que du fanatisme. Ils n'en veulent pas. Ils la renvoient. Ils croient qu'ils doivent eux-mêmes faire quelque chose. Ils veulent fabriquer leur propre système. Dieu a déjà un système ici, sa parole. Mais nous ne la voulons pas. Ainsi, nous nous trouvons aujourd'hui comme en ce temps-là. Et maintenant, voyons que les gens sont destinés à être ainsi. Remarquez, vous dites, je sais que je prends beaucoup de temps, mais je ne veux pas continuer à observer cela parce que cela me rend nerveux. Vous voyez, la politique, prenons par exemple, pour voir si les gens sont destinés à former trois classes. Prenons la politique. Il y en a qui sont d'ardents partisans d'un homme. Un autre groupe le déteste. Un autre groupe encore ne sait pas ce qu'il faut faire avec lui. Ils ne savent lequel choisir et cela les plonge dans l'embarras. Cet homme dit, oh, c'est un grand homme, il fera le meilleur des présidents. L'autre dit, ce n'est rien d'autre qu'un renégat. Alors celui qui est entre deux dit, eh bien maintenant, je ne sais pas que faire. Vous voyez, nous sommes faits ainsi, nous sommes constitués de cette manière. Les humains sont ainsi, ils devaient en être ainsi pour accomplir le grand plan de Dieu et pour permettre l'accomplissement de ce qu'il voulait réaliser sur la terre. L'homme devait être ainsi. L'un est juste, l'autre est faux, et le dernier est entre les deux. Il en a toujours été ainsi. Remarquez, ils agissent ainsi. Toutes les fois qu'ils ne savent pas, l'homme entre deux occupe une mauvaise place. Parce que l'un peut montrer la raison pour laquelle il croit avoir raison, l'autre peut montrer comment il croit qu'il a tort, et celui qui est entre deux n'y connaît rien, il ne sait pas de quel côté se tourner. Il en est ainsi dans la religion. Les gens font la même chose aujourd'hui à propos de leur destination éternelle. Maintenant, nous allons être blessants. Juste un instant. Ils agissent ainsi avec leur destination éternelle. Si vous allez manger quelque part et que vous trouviez une araignée dans votre assiette de potage, vous aurez envie de porter plainte contre cette compagnie ou ce restaurant. Voyons, vous ne voudriez pas manger ce potage. Il serait empoisonné. Vous n'en prendriez pas du tout. Un gros cafard ou autre chose qui serait cuit dans une assiette de soupe. Vous n'en voudriez pas du tout. Ça vous rendrait malade, rien que d'y penser. Et pourtant, vous allez laisser une bande de théologiens. Vous ingurgitez quelque chose qui vous enverra un million de kilomètres de Dieu. Et vous allez l'avaler. Alors que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une chaîne par laquelle votre âme est suspendue au-dessus de l'enfer. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, la résistance d'une chaîne se mesure à son point le plus faible. Il suffit qu'un anneau se rompe. Il vous suffit d'en briser un. C'est tout. Les autres se détacheront de lui. Elle n'est pas plus solide que son anneau le plus faible. Maintenant, une personne qui sait que si vous mangez ce potage qui contient une araignée venimeuse, cela vous rendrait probablement malade. Vous devriez aller à l'hôpital, subir un lavage d'estomac et toutes sortes d'ennuis. Et cela pourrait très bien vous tuer. Mais oh, vous n'iriez plus jamais dans un endroit comme celui-là. Vous n'y remettriez plus jamais les pieds. Parce que vous auriez peur d'être empoisonné et de mourir. Et pourtant, vous voulez absolument vous unir. Apposez vos noms dans des livres. Et luttez pour la cause même à propos de laquelle la Bible a dit, cela ne condamne pas vos corps, mais envoie votre âme en enfer. Vous voyez, comme ces gens agissent étrangement. Ils choisissent leur destination éternelle en s'appuyant sur un terme théologique. Vous pouvez leur rapporter les Écritures et dire, voici ce que la Bible dit, c'est à cet endroit précis. Le théologien va la regarder en disant, oh, c'était pour une autre époque. Vous voyez, et vous l'écoutez. Vous voyez ce que Dieu dit. Un véritable et authentique chrétien n'écoute que cette parole, c'est tout. L'homme de Dieu vit de ce pain. Remarquez, certains croient en la parole, alors qu'il y en a d'autres qui croient en leur interprétation dénominationnelle. Il y en a encore d'autres qui, à cause de cette confusion, ne savent pas que croire. Maintenant, certains d'entre eux ont dit, « Oh, ce conseil mondial des églises, ça va être la solution, cela va tous nous unir, oh, c'est juste ce qu'il faut. » Et d'autres disent, « Comment, c'est du diable ! » Voilà où cela se trouve dans les Écritures. Alors l'homme qui ne prend pas le temps de s'arrêter pour prier, chercher, dit, oh, oublions ça. L'oublier, c'est votre décision, frère, votre position, la direction que vous prenez va vous envoyer à votre destination éternelle où vous resterez à jamais. Ne faites pas ça. Il convient que nous nous arrêtions lorsque quelque chose comme cela se présente. Et une question comme du temps de Jésus, lorsqu'il vint, l'Église dit, oh, ce n'est qu'un renégat. Il n'a rien d'intéressant. Mais il dit, sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui vous disent que je suis. Alors les hommes, les femmes, quelle que fût leur condition de chrétien, ou leur intérêt pour leur destinée éternelle, auraient dû sonder les Écritures et voir qui il était. Alors il n'y aurait pas eu la question, qui est celui-ci? Ils auraient dit, voici, c'est lui. Voilà toute la différence. Vous voyez, c'est l'homme. Ils ont tendance à être ainsi. Certains sont destinés à cela. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Ça se voit, vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, certains disent, je crois la parole est la vérité, toute la parole. D'autres disent, Oh, nos pasteurs vont apprendre ce genre de... Ils savent que dire à ce sujet. Un autre dit, oh, je ne sais pas, je me suis joint à celui-ci, je ne l'ai pas aimé, alors je suis allé ici, je me suis joint à celui-là, je ne sais pas auquel appartenir. Vous voyez, c'est exactement comme à l'époque. Le même genre de foule. Il en a toujours été ainsi dès le commencement, et il en sera toujours ainsi. Maintenant, considérons la vérité de la Bible à ce sujet, et voyons s'il est juste. Seulement quelques minutes. Adam, au commencement, ça débuta comme ceci, comme nous le voyons aujourd'hui. Cela n'a pas changé du tout. Adam était un croyant. Satan était un incroyant. Il ne croyait pas la parole. Alors, il attrapa Ève, qui n'est pas, vous mourrez. Satan dit, ce n'est pas vrai. Vous voyez, il ne l'a cru pas. Adam l'a cru. Alors, il travailla sur celle qui était entre les deux. Il ne pouvait faire la différence. Elle ne pouvait simplement pas faire la différence. Maintenant, remarquez, la femme ici représente la future église dénominationnelle appelée épouse. Cela apparaît dans la Genèse. C'est une semence. En commençant la Genèse, vous obtiendrez l'image correcte, vous voyez. Or ici, elle représentait l'église de ce jour. Parce que certains disent, maintenant nous prenons les presbytériens, les luthériens et tous les autres, les hommes d'affaires, etc., qui viennent demander, nous aimerions avoir, nous désirons le baptême du Saint-Esprit, nous aimerions le recevoir. Réalisez-vous le jour dans lequel nous pourrions être, voyez-vous, il se pourrait qu'ils ne le reçoivent jamais. Savez-vous que Jésus dit, lorsque les vierges endormies, maintenant souvenez-vous que la vierge endormie vint réclamer de l'huile, mais tout était fermé, elle n'en reçut pas, elle n'en reçut jamais. Réalisez-vous qu'après le départ au ciel de l'épouse dans l'enlèvement, les églises continueront, les gens penseront qu'ils sont sauvés, ainsi de suite, comme ils l'ont toujours fait, ils continueront comme du temps de Noé. Ils continueront à manger, à boire et tout le reste comme auparavant. Ils ne le savaient pas, mais la porte était fermée. Et se pourrait, mes amis, que la porte se ferme à tout moment. Peut-être, que sais-je, est-elle déjà fermée. Nous ne savons pas. Seuls quelques-uns entreront. Nous savons cela. Ce qui arriva au temps de Noé, où 8 âmes furent sauvées, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il n'y aura que quelques âmes de sauvées. Je ne dis pas 8. Ce pourrait être 800 ou, je ne sais pas combien, 8 000, je ne sais pas, 8 millions. Voyez-vous, l'épouse ne sera pas constituée seulement du petit groupe qui est ici sur la terre maintenant. À la 7e veille, lorsqu'il vint, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes celles qui, par le passé, avaient cru cette parole ointe à travers les âges, se levèrent. Comme la pyramide, la base, et ainsi de suite, mais la pierre fêtière devait venir prendre de toutes pour en faire une pyramide, vous voyez, en réunissant chaque partie. Ainsi, l'épouse sera constituée de tous ceux qui, à travers les âges, ont cru accepter Christ comme leur sauveur. Ainsi, Ève n'était pas sûre. Adam lui dit, « Chérie, Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Mais Ève dit, Satan dit, « Ce n'est certainement pas vrai. Tu imagines qu'un père traiterait ses enfants, juste quelque chose comme ça pour s'amuser? Ce n'est certainement pas ainsi. » Vous voyez, et vers quoi se tourna-t-elle finalement? Elle se tourna vers le « certainement ». Et c'est exactement ce que l'Église fait aujourd'hui, exactement. Oh, certainement, nous sommes une grande église, nous sommes un grand peuple, cela fait longtemps que nous sommes, tout ce fanatisme ici, ce fatras qu'ils appellent baptême du Saint-Esprit et tout, ce sont des bêtises. Voyez, il n'y a rien comme ça. Oh, certainement, je paye ma dîme, je vais à l'église, ma mère a l'air, certainement que Dieu. Mais Dieu a parlé différemment. Amen. Voyez, il s'agit de cette Laodicée pour montrer que c'est déjà terminé, qu'elle est déjà scellée là et que Christ est dehors. Il n'a jamais dit qu'il reviendra à l'intérieur, vous savez, ainsi nous la trouvons aujourd'hui, mettant la parole dehors, comme ce fut toujours le cas. Maintenant remarquez, Moïse, la parole ointe, ou comme nous l'appelons, j'espère que vous comprendrez si je dis qu'il était le Messie. Il était la parole ointe qui avait été promise pour ce temps-là. Moïse l'était, croyez-vous cela?
Amen.
Certes. Le mot « Messie » signifie « loin », vous voyez? Maintenant, Noé fut loin pour son temps. Abraham dit que son peuple séjournerait 400 ans en esclavage, qu'il en sortirait par une main puissante et qu'il y aurait aussi des signes et des miracles. Et les générations qui viendraient, ce qu'elles feraient, et Moïse était là, cette parole « loin » pour ce temps. C'est la raison pour laquelle il put mettre sa main dans son sein. Pourquoi? Il se tenait dans la présence de Dieu. Amen. La grande gloire de la Shekinah tout autour de lui. Chaque mouvement qu'il faisait représentait Dieu. C'est là que l'Église devrait être maintenant. C'est vrai. Au lieu de cela, nous nous sommes lancés dans une folle entreprise dénominationnelle. Mais Moïse avait été attiré et se mis à part. Et là, dans ce buisson, se tenait la colonne de feu. Et Moïse était là, loin. Aucun doute que l'homme ne savait même pas ce qu'il faisait. Des symboles lui furent donnés alors qu'il était là, avec son bâton de berger. Il sut que ceci serait une verge dans le désert. Elle se transforma en serpent, puis devint expiation. C'est ce que fit ce serpent dans le désert. Et toutes les choses qu'il fit, des signes et des voix parlèrent au peuple. Vous voyez, quelque chose était en relation avec lui. Et se peut bien que Moïse ne l'ait pas su lui-même, mais il était la parole loin de ce temps. Il était le messager loin. Alors, s'il fut le messager de cette heure, il fut le Messie de cette heure.
Amen.
Il fut loin. Maintenant, lui, Josué et Caleb, furent les croyants du groupe. Remarquez, elles essayèrent d'enseigner aux autres la vérité. Mais voyez, Satan, Dathan et Corée firent périr les autres dans le désert. Or, qu'est-ce qui n'allait pas? Dieu avait appelé Moïse. Il ne voulait pas aller. Ses prophètes devaient faire des choses telles qu'il... C'était dur à faire. Il ne voulait pas sortir, être méprisé. Il voulait fraterniser, aller avec les autres et s'accorder avec les frères. Mais vous voyez, de même que, je crois, j'ai oublié quel prophète a dit, si je ne veux pas faire ceci, en d'autres termes, mais sinon, tout mon cœur s'embrasera. Dieu a parlé et je dois délivrer son message. Qu'on aima cela, qu'on le crucifia, qu'on le lapida, quoi qu'on fît, Dieu a parlé dans son cœur et il doit le faire. Non pour être différent, mais pour obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez, c'était dans son cœur, il doit le faire. C'était sa vie, il ne pouvait la garder. Il y avait quelque chose, une force qui les poussait. Il ne pouvait la bénir ou la maudire. Dieu les contrôlait à tel point qu'il était leur voix, leur action. Alléluia. Donnez-moi une église qui soit ouinte par Dieu à un point tel que chacune de ses actions et de ses mouvements soit ainsi, dit le Seigneur, et qu'elle marche dans cette gloire de la Shekinah. Alors je vous montrerai un Messie en oint de Dieu sur la terre. Moïse se tenait donc là, près du buisson ardent et de la gloire de la Shekinah. Il était là, ouin, et sachant à peine ce qu'il faisait. Il obéissait simplement à ce que la voix lui disait de faire. Mets ta main dans ton sein, retire-la, prends cette vierge, transforme-la en serpent, jette-la à nouveau par terre. Point pour ce que quiconque disait, il le faisait.
Amen.
Il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire et je suis prêt à me rendre en Égypte. Je ne suis pas un homme éloquent, je ne sais pas bien parler, mais laisse-moi simplement voir ta gloire. Et il la lui montra, alors il partit et fit ces mêmes choses, afin de montrer qu'il était le Messie ouin. Cet homme ramassa de la poussière de la terre, la jeta en l'air, et des mouches et des puces s'envolèrent de cette poussière et recouvrirent la terre. Qu'est-ce qui put créer si ce n'est Dieu?
Amen.
Il prit de l'eau de la rivière, elle la versa sur la rive, et chaque goutte d'eau dans toute l'Égypte se transforma en sang. Qu'est-ce qui put faire ça si ce n'est Dieu? Qu'était-ce? Il était tellement soumis à la parole loin de Dieu qu'il était le Messie. Les Égyptiens essayèrent de rejeter cela de cette manière. Les incroyants essayèrent de rejeter cela. Les soi-disant croyants essayèrent leur plan. Mais la parole de Dieu les emmena tout droit dans le pays promis. C'est vrai. Ils étaient loin. Il était le Messie. Maintenant, la question surgit dans le désert. Voici où cela amène. Regardez maintenant. Je désire que vous fassiez attention, mes frères. Or, souvenez-vous, ces gens jouissaient de ces bénédictions. Ils jouissaient de la prédication de ce prophète, ce oint. Ils le croyaient, ils le suivaient. Mais c'est là, dans le désert, qu'apparurent deux hommes, du nom de Dathan et l'autre du nom de Corée. Ils dirent, c'est devenu l'affaire d'un seul homme. Moïse croit qu'il est le seul appelé de Dieu. Ils ne voulurent pas de ce message d'un seul homme. Non, ils n'en voulurent pas. Or, Dieu n'a jamais traité avec plus d'une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il déjà traité avec les gens autrement qu'avec une seule personne? C'est individuel, ce n'est pas en groupe. Vous êtes responsable devant Dieu, chacun de vous. Vous dites, oh, je le crois, vous, ce que vous faites, c'est seulement l'accueillir. Vous nourrissez une pensée. Voici une femme, je suis un jeune homme, j'attends de pouvoir me marier. Elle répond en tout point à mes vœux. C'est une révélation chrétienne, elle a l'air, elle s'habille, elle agit, elle vit comme une chrétienne. Je trouve qu'elle pourrait faire une bonne épouse pour moi, mais ce n'est pas la mienne, tant que je ne l'ai pas prise comme la mienne. Le message est ainsi. Vous pouvez avoir de la sympathie pour lui dire, c'est juste, mais vous devez le prendre vous-même pour en devenir une partie. Alors vous et le message devenez un. Alors l'onction est avec vous, comme elle est avec les autres. Donc Satan ne le croyait pas. Il amena Dathan et les autres à ne pas le croire. Et les fils tous périrent. Mais vous dites, un instant, frère Branham, vous avez dit trois, Moïse, Josué et Caleb. C'est parfaitement exact, c'était bien ainsi. Mais ici, vous dites seulement deux. Vous dites ici qu'il y avait un... Vous dites le Satan surnaturel, mais il y avait aussi le Dieu surnaturel pour oindre ces trois. Ainsi, Satan est seulement loin, mais il y en a un autre qui vient, un autre vient. Observez un instant. Il apparaît sur la scène, son nom est Balaam. C'est un prophète qui aime l'argent, un soi-disant prophète, un faux prophète. Il y a toujours eu toutes sortes de prophètes, et il y a toujours eu des prophètes avec Israël, avec le groupe, qui dispensaient des flatteries et propageaient des ragots, qui côtoyaient le roi et désiraient son approbation et ses faveurs. Enfin, comme Akab, qui en avait 400, tous habillés style ecclésiastique. Elle dit au grand roi Josaphat, « Mais bien sûr, j'ai 400 prophètes hébreux, tous bien formés. » Elles vinrent tous et prophétisèrent. Mais cet homme avait suffisamment de Dieu en lui pour savoir que c'était faux.
Amen.
Parce qu'il savait qu'Eli avait maudit cela. Et comment Dieu pouvait-il bénir ce qu'il avait maudit? Il ne le pouvait pas. Josaphat dit, « En as-tu encore un que nous pourrions questionner ?» Il dit, « Oui, tu en as un ici. » C'est Michée, le fils de Shimla, mais dit-il, je le déteste. Il nous tourmente tous constamment, me condamnant et me disant des choses désagréables. Le lion avait rugi. Dieu avait parlé. Qui ne pourrait dire la vérité? Si c'était contraire à la parole de Dieu, il devait le maudire. Ils ont toujours eu un faux prophète, mais ils en ont aussi toujours eu un vrai.
Amen.
Souvenez-vous, il n'y avait pas toute une école de prophètes. Il y en avait un parmi eux. Et c'est en tout temps ainsi. Il en est toujours ainsi aujourd'hui. Le prophète du jour est cette parole. C'est vrai, le prophète aujourd'hui, ce ne sont pas tous si différents. Il y a un prophète méthodiste, un prophète baptiste, un prophète pentecôtiste, toutes sortes de prophètes dans le pays. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a qu'un vrai prophète.
Amen.
Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai, Jésus-Christ, et il est la parole.
Amen.
C'est vrai, il est la parole ointe de l'heure. Observez-le maintenant, alors que nous poursuivons. Nous voyons que Josué est Caleb. Alors vient Balaam, le prophète mercenaire. Que fit-il? Il passa outre toutes les paroles de Dieu. Après que Dieu les lui ait montrées, il représente la dénomination aujourd'hui. Nous montrerons cela dans quelques instants, ce que Dathan et les autres étaient. Donc Balaam représentait la dénomination, une personne qui ne devrait pas, qui devrait savoir mieux. Il savait que c'était faux. Mais que fit-il après cela? Dieu lui donna un avertissement, mais il ne tint pas compte de cet avertissement. Il était si assoiffé d'argent et de popularité qu'il se joignit quand même à eux. Et c'est ainsi qu'agissent les églises aujourd'hui. Elles pénètrent tout droit dans ce Conseil mondial des églises. Des avertissements ont retenti à travers le pays en ces derniers jours, accompagnés de signes et de miracles. Ils y entrent de toute façon, parce qu'ils aiment la louange des hommes plus qu'ils n'aiment la parole de Dieu. J'ai un cher ami là-bas qui prêche ce message. Un pentecôtiste qui parle aux gens dans le but d'unir l'Église. Il dit que nous devons entrer dans ce mouvement œcuménique. Eh bien, certains, l'Église de Christ. Beaucoup de ces dénominations qui ne croient même pas à la naissance virginale et toutes ces différentes choses appartiennent à cela. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Bon, vous avez dit amen à cela. Maintenant, je me demande ceci. Comment se peut-il, comment un homme peut-il dire qu'il est chrétien et rempli du Saint-Esprit et nier que cette parole soit la même hier, aujourd'hui, éternellement? Le Saint-Esprit en vous ponctuera cette parole, chaque parole, par amen, amen, amen.
Amen.
Lorsque la parole dit quoi que ce soit, vous dites, c'est la vérité. Amen. Parce que vous êtes d'accord avec la parole. Vous êtes d'accord avec Dieu. Vous et Dieu êtes un. Dieu est en vous, vous êtes son fils ou sa fille, c'est-à-dire un Messie. Pour lui, la parole ointe vivant en vous. Remarquez, Balaam ignora ces choses. Il était une dénomination parfaite et une réponse parfaite à leur goût. C'est ce que Dathan voulait. C'est ce que Corée voulait. Il voulait en faire une organisation. Il disait, nous avons partout de saints hommes ici. Peu importe que deux hommes puissent marcher ensemble parfaitement, il y a une différence entre eux. Nos nez ne sont pas pareils, nos empreintes digitales ne sont pas pareilles. Il y a beaucoup de choses en nous. Cependant, nous pouvons donner notre sang à quelqu'un d'autre. Même si vous prenez des jumeaux, ils restent différents. Par conséquent, voyez-vous, Dieu met une seule personne dans ce mouvement et l'autre y croit. Il fit un homme et beaucoup d'hommes à partir de cet homme. De même que tous meurent en Adam, tous vivent en Christ. Il fit un chemin de mort et ils y marchèrent tous. Il fit un chemin de vie et ceux qui marchent ont la vie. À partir de la mort d'un homme, pas d'une douzaine d'hommes. Il n'a pas fallu qu'une douzaine d'hommes pêchent, un homme commit un péché. Et un homme paya toute la rançon. Vous n'avez plus besoin de vous traîner sur les genoux, de dire des Ave Maria et toutes ces autres choses, et de rendre hommage aux morts. Jésus mourut afin que le don de Dieu puisse être gratuite. Il paya toute la dette, mais voyez-vous, nous voulons y ajouter quelque chose. Observez ceci maintenant. Ces gens allèrent lui dire, ainsi, tu essaies de faire de toi-même le seul homme de l'équipe. Tu penses que tu es le seul. Et Moïse était épuisé par cela. Il revint et dit, Père, il dit, sépare-toi d'eux. Tous ceux qui sont du côté de Dieu, venez ici. Et il ouvrit la terre et les engloutit. Est-ce vrai? Pensez donc à ça, frère. Oh là là, pourquoi ne le crurent-ils pas? Pourquoi ne crurent-ils pas que ce Moïse était ce conducteur de Dieu? Pourquoi voulurent-ils argumenter avec lui? Toujours murmurer et se plaindre alors qu'ils avaient vu la main de Dieu agir sous... Et Moïse, Dieu avait prouvé que ce Moïse était son messager, son messie oint. Vous voyez? Alors, voyez, dans leur cœur, ils voulaient autre chose. Que vous est-il arrivé, pentecôtiste? Il y a quelques années, vous êtes sorti de ce gâchis appelé dénomination pour devenir la Pentecôte. Pourquoi avez-vous voulu y retourner? La balle devait venir. Le grain n'était pas encore là. Vous voyez? Remarquez, c'est ainsi qu'ils ont agi. C'était dans leur cœur, ils devaient le faire. Maintenant, voyez-vous, Dathan avait dans l'idée qu'ils pourraient tous en faire une grande religion. Vous savez, même l'apôtre Pierre eut cette idée sur le mont de la Transfiguration. Il dit, construisons ici trois tabernacles, l'un pour Moïse, l'un pour la loi et l'un pour les prophètes. Hein. Et alors qu'il parlait encore, une voix descendit et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. C'est alors qu'ils regardèrent à nouveau et virent Jésus seul. Il se tenait là, il était la parole. Tout ce que vous avez à entendre, c'est cette parole. C'est lui dans n'importe quel âge. Voyez ce que la parole dit pour cet âge. Regardez Dieu loin et marchez avec elle, c'est tout. Ils suivirent la colonne de feu, conduisant à la terre promise. Ceux qui allèrent jusqu'au bout y parvinrent, les autres périrent. Remarquez, ils voulaient la parole mélangée au monde. Ce qui les induisit en erreur. Et remarquez ce que cela leur fit. La parole, ils passèrent à côté d'elle, parce qu'ils ne voulurent pas accepter la parole ointe. Voyez-vous, vous devez avoir la contrefaçon. D'abord, vous devez avoir l'authentique pour en faire une contrefaçon. Ils l'eurent et Dieu montra qu'ils n'étaient pas avec cela. Pensez avec quelle perfection la parole leur avait été révélée, en leur étant confirmée. Tout ce que Moïse prophétisait arrivait, montrant qu'il avait été appelé pour les conduire dans la terre promise. Tout ce que Moïse prophétisa arriva à ce moment-là. Pas une parole ne faillit. Quel privilège cela aurait dû être de savoir que vous marchiez dans le désert. Et là, après, lorsqu'il leur apporta le message, il dut d'abord le croire. Mais lorsqu'il en eut sorti, Dieu dit, je vais leur prouver que je suis cette colonne de feu que tu as rencontré dans le désert. Alors il dit, rassemblez tous au pied de la montagne. Puis Dieu descendit sur le sommet du mont Sinaï et se mit à faire entendre un bruit de tonnerre. Alors le peuple dit, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle, que Dieu dit, je ne leur parlerai plus comme cela, mais je leur susciterai un prophète qui parlera en mon nom. Vous voyez? Nous découvrons ainsi que c'est ce que Dieu a toujours fait. Pourquoi ne purent-ils pas voir cela au commencement? Voir toutes ces choses et ensuite murmurer contre le message qui les conduisait vers la terre promise, qui leur donna un bon départ et les conduisait vers la terre promise. Pourtant, il fallut qu'ils murmurent contre lui. Pensez quelle perfection. Combien j'aurais pu marcher chaque jour avec le Seigneur. Quelle vie à vivre au milieu du désert. Le matin, manger la manne qui était tombée pendant la nuit. Vous savez, cela devint si commun pour eux qu'ils dirent, notre âme est dégoûtée de ce pain. Vous voyez, elle en était de même avec nous. Je pense simplement au petit groupe que nous, simplement à mon petit ministère dans le pays. Voyant non seulement la guérison et ces choses, ça s'est toujours produit. La guérison, Dieu a toujours offert la guérison quelque part. Il eut même une fois un ange sur une piscine. Et il, toutes sortes de choses, le serpent des reins dans le désert. Vous avez toujours eu des symboles de guérison. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. La guérison est une chose qui attire l'attention des gens. N'importe qui fera un don pour un service de guérison. Ils feront un don pour un festival de chant. Mais lorsqu'il est question d'une pauvre âme perdue, cela ne les intéresse pas. Regardez, n'est-ce pas juste? Nous avons tous, mais ils ne veulent rien avoir à faire avec une pauvre âme perdue. Ils la laissent errer dans n'importe quoi. Ils disent, c'est en ordre, il appartient à l'Église, ça ne causera pas de tort. Mais maintenant nous voyons ici, nous allons terminer aussi vite que possible. Pensez combien c'est parfait. Je regarde les jours que nous avons vécu ici sur cette terre. Regardez ce que le Seigneur Dieu a fait. Cela a commencé par de grands signes, des prodiges et des miracles dont nous avons tous joui, puis observé. Ensuite vint le message. Observez ce qui s'est passé. Être en train de marcher, pas tout seul, mais avec d'autres hommes, puis voir un groupe d'anges descendre des cieux et ébranler la terre tout entière. Les journaux en parlèrent, alors que cela avait été prédit des mois et des mois à l'avance. Il se tint là et dit, le temps est proche, retourne, ouvre les sept sceaux des mystères qui sont restés cachés pendant toutes les réformes, et révèle-les. Alors vient la prédication de la semence du serpent, et de toutes ces autres choses. Et que fait le clergé, au lieu de dire, voyons, Luther a dit ceci ou cela. Ils ne le verront jamais, vous voyez. Mais quel privilège c'est pour nous, qui croyons, de marcher dans la présence de Dieu, chaque jour. Nous trouver là, et voir un tourbillon descendre du ciel, souffler une montagne à moitié en deux, et décapiter des arbres, etc. Et une parole puissante retentit trois fois disant, regarde-le gagner la côte ouest. Elle s'est rendue immédiatement et prend l'Alaska. Et maintenant, il descend la côte ouest. Exactement. Le jour précédent, je pris une pierre, la jetai en l'air et dis, ainsi parle le Seigneur. L'heure est arrivée. Les jugements vont commencer sur la terre. Des tremblements de terre, autre chose vont se produire. Et toute la côte ouest va être secouée, et ainsi de suite. Regardez comme c'est parfait. Jour après jour, tout arrive exactement comme il a dit. Comment pouvons-nous nous en détourner, frères? Gardons notre foi en lui. Ils disent, qui est celui-ci? Nous savons qui c'est. C'est Jésus-Christ même, hier, aujourd'hui, éternellement, la colonne de feu.
Amen.
Regardez ce qu'elle fit du temps de Moïse. Elle typifia la colonne de feu d'aujourd'hui. C'est toujours pourquoi ne crurent-ils pas que Jésus était la parole? C'est qu'ils avaient une interprétation et une compréhension fausse. Ils font maintenant comme Ève alors. Ainsi Balaam et sa doctrine était ce qui leur convenait. Cela correspondait exactement à leur goût. Regardez la fête à la fête des Moabites. Voyez, oh, ce qu'il dit. Regardez comme c'est une image aujourd'hui, comme ça typifie. Je vous garde trop longtemps, mais regardez. Remarquez juste un instant la fête des Moabites. Voyez, si Balaam ne pouvait les faire aller là-bas d'une façon, alors il les organisait entre eux. S'il ne pouvait les maudire lui-même, plus ils maudissaient, plus Dieu bénissait. Voyez, c'est ce qu'il fit aux pentecôtistes. Ils dirent, il y a quelques années, lorsque vous avez tous commencé, que vous n'iriez nulle part, que vous n'aviez rien d'intéressant, que vous alliez vous consumer, que vous n'étiez qu'une bande de fanatiques, mais chaque fois qu'ils essayaient de vous maudire, vous alliez davantage de l'avant. Dieu continue à révéler son message, depuis l'ancienne assemblée, au commencement, le conseil général, puis va le moment où ils reçurent le nom de Jésus-Christ pour le baptême d'eau, alors l'un saute à ce côté, un autre de l'autre et un autre parti, organisa ceci et cela, Dieu continue à bénir. Eh bien maintenant, il a vu qu'il ne pouvait vous maudire, vous voyez? Alors que va-t-il faire? Il va vous organiser, vous amener. Oh, de toute façon, nous sommes tous un, vous voyez? Nous croyons tous dans le même Dieu. Or, c'est juste ce que Balaam disait. Et Jude ne nous a-t-il pas mis en garde contre ceci? Ils se sont jetés dans l'égarement par la doctrine de Balaam, et se sont perdus par la révolte de Corée. Jude, le frère de lait de Jésus, ne nous met-il pas en garde là contre dans la Bible? Ils sont depuis le commencement comme Caïn, le mercenaire, celui qui alla à l'église, construisit des églises, construisit un autel et fit des sacrifices. Ils s'égarent en suivant la voie de Caïn. Ils se jettent dans la voie de Balaam et se perdent par la révolte de Corée. Jude explique toute l'affaire comme nous sommes en train de le faire ici ce matin devant vous. Toute l'affaire est là. Et ils le périrent dans la révolte de Corée. Pensez donc combien ce fut mal. Rien que de penser à ce que Corée... Voyez, il dit, maintenant nous allons tous aller à une fête. Nous sommes tous un. Les Moabites croyaient en Dieu, c'étaient les enfants des filles de Lot. Vous voyez, nous croyons tous en Dieu. Fondamentalement, ils avaient parfaitement raison. Regardez, Balaam là-bas, aussi fondamental que n'importe quel bon baptiste ou presbytérien d'aujourd'hui. Il va là-bas et il y avait Israël sans dénomination. Ils formaient une nation. Israël n'était pas une nation. C'était un peuple en ce temps-là. Après un certain temps, ils ne voulurent pas suivre le chemin de Dieu. Ils voulurent être comme le reste des nations. C'est alors qu'ils faillissent. Mais tant qu'ils veulent rester avec Dieu, tout va bien. Balaam sortit, il regarda et dit, « Oh là là, je sais que l'un des pasteurs a épousé la femme d'un autre homme. » Toutes ces autres choses, oh, certes, il y en avait beaucoup. Mais il oublia d'entendre le cri du roi dans le camp. Il n'avait jamais vu ce rocher frappé et ce serpent des reins suspendu pour servir d'expiation. Il ne réalisa pas qu'ils étaient liés à aucune organisation. Ils étaient liés à l'alliance de Dieu et marchaient d'après elle. Vous voyez? Et Balaam dit, fondamentalement, construisez-moi cet autel. C'est ce que Jéhovah réclamait. C'est ce que Jéhovah obtint des deux côtés. Très bien, posez dessus cette veau. C'est ce qu'ils firent là-bas dans le camp. Mettez-moi dessus cette bélier, parce qu'un jour viendra Messie. Très bien. Vous voyez, fondamentalement, ils avaient les deux raisons. Fondamentalement, vous voyez. Mais un jour, lorsqu'il vit qu'il ne pouvait l'avoir là-dessus, il dit, eh bien, si nous organisions entre nous. Et c'est là qu'ils commirent leur faute. Et c'est exactement là que la Pentecôte commit sa faute. Lorsqu'elle s'organisa comme les autres églises, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre frère. Un de ces jours, vous découvrirez que c'est la vérité. Amen. Cela peut prendre un peu de temps, quelques révolutions du soleil, mais un jour, vous verrez que c'est juste. Amen. Ainsi, la doctrine de Balaam les frappa juste. C'est ce qu'ils désiraient. Nous sommes tous un. Ils allèrent donc là-bas. Tous leurs prophètes et les autres allèrent avec eux. Et à la fête, le même dit, nous croyons tous qu'il y a un Dieu. Croyons cela. C'était juste ce qu'ils cherchaient, exactement. Bien que maintenant, les méthodistes et les baptistes ont de la peine à se mettre ensemble à cause de leur organisation, lorsque viendra une organisation maîtresse qui permettra à tous d'être ensemble, alors très bien. Oh, dites-vous, les pentecôtistes ne l'accepteront jamais. Vraiment? Que firent-ils l'autre jour dans le Missouri? Vous avez sûrement lu vos journaux, vous voyez? Vous ne les ferez pas? Non, pas vous, pentecôtistes, ce n'est pas vous, c'est ce gouvernement là-bas qui vous manœuvre. C'est la tête qui vous fait tourner, c'est vrai, n'allez pas avec cela. Restez-en éloignés, c'est la marque de la bête. Libérez-vous de cela aussi vite que possible. Voyez, c'est cette tête gouvernementale qui dirige les opérations. Nous ne serions jamais traversés pour avoir cette guerre avec l'Allemagne et les autres. S'il y avait eu certains de ces grands politiciens à la tête, désirer de fabriquer de nouvelles armes et commencer, je ne veux pas d'argent ensanglanté du sang de mon propre enfant qui doit aller mourir là-bas pour cela. Voyez, mais c'est ça, c'est la politique qui fait ça. Et le monde entier est contrôlé par le diable. C'est exactement ce que Jésus a dit. Et ce ne sera jamais juste jusqu'au millénium où Jésus viendra dominer. Amen. Mais maintenant, nous avons ces ennuis. Dépêchons-nous de terminer maintenant. Juste ce qu'il cherchait, exactement cette chose. C'est juste ce qu'il voulait. La victoire de Satan à la fête des Moabites. Il va encore en avoir une autre. Il les a tous de la même manière. Attendez, c'est immédiat. Pensez à ce qu'ils ont fait. La même chose qu'alors. Il n'a jamais fallu pour cela 3 ou 4 longues années. Il, le faux prophète, l'homme qui passa outre la parole de Dieu, tous les avertissements que Dieu envoya à travers le pays le disaient, sortez de là, sortez de là, sortez de là, ils ne le feront pas, ils resteront là. Ils ignorent la parole de Dieu, ignorent les paroles, ignorent les signes, ignorent les choses dans lesquelles nous sommes, et continuent en disant, quoi qu'il en soit, nous l'aurons, nous allons aller de l'avant, nous devons l'avoir, c'est tout, nous sommes tous un. Voyez-vous la folie du diable? Ils firent la même chose à la fête de Nicée, à Nicée et Rome. Ils en firent une organisation, et voilà ce qui est arrivé. Satan, une fête de Nicée. Oh là là! Et depuis ce moment-là, écoutez, je vais vous dire un grand mot maintenant. Et vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez avec vous-même. L'histoire et la Bible, voyez-vous, mais pas avec moi. Écoutez, chaque fois que Dieu envoie un messager, elle lance un message. Et lorsque cette église, lorsque ce groupe de personnes en vient à la fête dénominationnelle, c'est là qu'ils le font. C'est là que vous, assemblée, l'avez fait. C'est là que vous, unitaires, l'avez fait. C'est là que le reste d'entre vous l'avez fait. à votre fête dénominationnelle, vous précipitez à nouveau dans ce que Dieu a maudit dès le commencement. C'est l'exacte vérité. Toutes les fois que l'Église a eu un réveil, au temps de Luther, ensuite un « qu'arriva-t-il ?» les méthodistes, tout au long des âges, Zwingli, Finlay, Finney, tous les autres, lorsqu'ils eurent un réveil, qu'en firent-ils ? Ils le propulsèrent dans une fête dénominationnelle, y entrèrent rampant avec les autres, puis en leur donnant un nom comme les autres. Alors ce sont des hommes qui vous contrôlent. Le Saint-Esprit ne peut plus aller plus loin, exactement. Si vous commencez à prêcher quelque chose que la Bible enseigne, mais que la dénomination ne croit pas, elle vous expulse immédiatement. Essayez une fois et voyez si c'est juste ou non. Vous verrez que c'est la vérité. Voyez, chaque fois qu'ils sont appelés à une fête dénominationnelle, à cette fête de Balaam, les ennuis commencent. Oh, Luther, Wesley, la Pentecôte et tous les autres en sont victimes. Remarquez, c'est à ce moment-là, alléluia, que Moïse s'avança et dit, « Qui est pour moi Dieu ?» Amen. C'est à ce moment-là que Lévite dégaina son épée, parcourut le camp et mit à mort tout ce qui était en relation avec cela. Amen. Tout homme qui avait une femme moabite, ils les tuèrent tous les deux sur le champ. Maintenant, l'heure est venue. Où est cet homme? Où sont les fils d'Aaron? Un homme du sacerdoce, prêt à dégainer la parole de Dieu, cette épée à deux tranchants, disant, « Qui est pour moi Dieu ?» Où est-il? On peut inviter, mais personne ne répond. Vous voyez ce que je veux dire? On ne comprend pas ça. Oh, il y a quelque chose de faux. Remarquez, ils étaient là. C'est alors que Moïse se leva et dit ces choses. Voyez quel péché ils commirent alors, lorsqu'ils se joignirent à Moab en constituant une dénomination pour former ainsi un seul corps. Eh bien, ce péché ne leur fut jamais pardonné. Je vais m'arrêter là-dessus juste une minute. On peut inviter, mais personne ne répond. Vous voyez ce que je veux dire? On ne comprend pas ça. Oh, il y a quelque chose de faux. Remarquez, ils étaient là. C'est alors que Moïse se leva et dit ces choses. Voyez quel péché ils commirent alors, lorsqu'ils se joignirent à Moab en constituant une dénomination pour former ainsi un seul corps. Eh bien, ce péché ne leur fut jamais pardonné. Je vais m'arrêter là-dessus juste une minute. Il est tard, mais juste une minute. Leur péché ne leur fut jamais pardonné. Pas un seul d'eux n'atteignit la terre promise. Jésus dit dans, excusez-moi une minute, Jean 6, lorsqu'ils dirent, non, père, ont mangé de la manne dans le désert. C'était des pentecôtistes, frères. Ils ont mangé la manne, ils avaient la chose véritable. Jésus dit, eh, ils sont tous morts. Ils périrent. Ils furent perdus pour l'éternité. Leur péché ne leur fut jamais pardonné. Que firent-ils? Ils rompirent leur alliance avec Dieu et s'organisèrent avec Balaam, le prophète mercenaire, qui ne voulait pas accepter l'avertissement de Dieu, ne voulait pas prendre la parole de Dieu, ne voulait rien prendre de Dieu, mais il était décidé à tous les unir. Pouvez-vous voir la folie? Je pourrais rester longtemps là-dessus, mais je pense que vous l'avez saisi. Vous voyez? Remarquez, leur péché ne leur fut jamais pardonné. À aucun de ceux qui avaient vécu sous ces bénédictions, mangez cette manne et tout le reste. Lorsque le message vrai ou authentique fut démontré, ils l'organisèrent. Nous allons nous mettre ensemble avec les Moabites. C'est une grande organisation, une grande nation. Nous ne sommes même pas une nation. Nous allons simplement nous marier entre nous et tout ira bien. Nous serons avec eux. Et cela ne leur fut jamais pardonné. Jamais, jamais pardonné. Jésus a dit, ils sont tous morts. Traduisez ce mot en hébreu ou en grec, l'un ou l'autre, ou même en anglais, signifie séparation éternelle. Perdus pour jamais. C'est vrai. Oh oui, ils virent les miracles. Ils virent la parole ointe. Ils mangèrent la manne descendue du ciel. Ils jouirent des bénédictions de l'expiation. Ils virent le rocher frappé donner son eau. Ils en burent. Ils furent personnellement en contact avec cela. Mais lorsqu'il y eut transgression de cette parole, n'oubliez jamais cela. Lorsque Jésus a dit, moi et mon Père nous sommes un, il n'a pas dit qu'ils étaient trois. Hein? Lorsque tous ces autres grands points fondamentaux des Écritures. Un soir dernièrement, un homme est venu vers moi pour me montrer où j'avais tort et pour parler de la Trinité. J'ai des milliers d'excellents amis trinitaires. Ils sont dans cette Babylone. J'ai aussi beaucoup d'amis unitaires dans cette Babylone. Voyez. Mais qu'est-il arrivé? Il dit, c'est une question de terminologie, frère Branham. Croyez-vous en la Trinité? Je dis, certainement. J'ajoutais, je vais prendre votre mot terminologie. Je dis, comment croyez-vous cela? Il dit, je crois en un Dieu. Je dis, vous faites bien, voyez. Il dit, je crois qu'il y a un Dieu et trois personnes de la divinité. Je dis, n'êtes-vous pas un étudiant de la Viola? Il dit, oui. Je dis, ça en a tout l'air. Je dis, ça ne parle pas en faveur de votre éducation. Je dis, trois dieux, trois personnes et un dieu. Je dis, d'après Webster, il doit y avoir une personnalité avant qu'il puisse y avoir une personne. Vous croyez en trois dieux, monsieur. Vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité, parce qu'il faut une personnalité pour faire une personne. Il dit, oh, monsieur Branham, vous savez, même les théologiens ne peuvent pas l'expliquer. Je dis, c'est parfaitement exact. La parole ne vient pas d'un théologien. Je dis, la Bible est enfermée dans la révélation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, amen, vous y êtes, voyez. Mais lorsque l'on en vient à ces choses, oh là là. Maintenant, nous voulons nous dépêcher, terminer si possible rapidement. J'ai dû sauter quelques passages de l'Écriture et des notes, voyez-vous. Maintenant, remarquez. Ils ne furent jamais pardonnés pour ce qu'ils avaient fait. Que firent-ils? Ils jouirent des bénédictions. N'oubliez pas cela. Je vais le répéter. Ils ne furent jamais pardonnés pour cela. Souvenez-vous, cette bande magnétique va dans le monde entier. Vous voyez, elle est écoutée dans des camps en Afrique, en Inde, dans le monde entier. Elle est traduite en différentes langues. Elle va dans des camps, à différents endroits. Le péché ne fut jamais pardonné. Quoi, il? Vous dites, eh bien, Dieu soit béni, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai mangé la manne céleste. Oui, eux aussi, et Jésus a dit, ils sont tous morts. Mais lorsque le message exact fut mis en cause, d'après lequel ils ne devaient pas briser cette alliance en s'unissant à une autre nation, Dieu était un ségrégationniste. Elle sépara ce peuple qui n'était pas censé avoir affaire à d'autres et se marier avec n'importe qui. Et la véritable et authentique Église et épouse de Christ est unie à Christ, qui est la parole.
Amen.
Et vous ne vous mariez pas avec une quelconque organisation ou dénomination, reste exactement avec Christ et cette parole, comme ce fut nécessaire dans tous les autres âges. Le faire signifie la séparation éternelle d'avec Dieu. J'espère que chacun saisit cela. Donc, dans notre texte, la fête de la Pâque était proche. Elle allait avoir lieu. C'était un moment épouvantable. Des gens dormaient à l'extérieur des portes. Il en était ainsi à chaque Pâque. Ils étaient dehors, couchés par terre. Les auberges étaient toutes pleines. C'était la Pâque. Il y avait là de grandes attentes. L'atmosphère était chargée. Maintenant, dans 5 ou 10 minutes environ, j'aurai fini, Dieu voulant. Tout le monde était tendu. Regardez, il y a là 3 classes de gens. Voyez, il y avait une grande attente. Ils savaient que cet homme étrange allait venir à cette fête. Certains l'aimaient et le croyaient. Certains le haïssaient, la plupart le haïssaient, et parce que l'un l'aimait que l'autre le haïssait, l'homme entre deux ne savait que faire. Voyez, il ne savait pas. Remarquez, l'air était plein d'attente. L'un disait, lorsqu'il sera là, je vous dis que nous l'appellerons, nous lui ferons subir un test de la parole, nous le mettrons là-bas près du souverain sacrificateur, nous verrons ce que sa sagesse fera contre celle de Caïphe. Il avait déjà prouvé, voyez. Mais nous ferons ceci, nous verrons, je sais que quelques grands chefs vont s'emparer de lui. Les gars, ils vont retourner ce type sans dessus-dessous. Ils vont lui faire savoir ce que cela veut dire d'aller se frotter avec nos prêtres. Oh, ils savent ce qu'ils font, ce sont des hommes intelligents, ils savent ce qu'ils font. Certains disaient, je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec ce type. D'autres disaient, oh, j'attends sa venue. Dieu est avec lui, il laisse cette parole, oh, je veux le voir. Vous voyez, ils étaient divisés. Maintenant, voyez, ceux qui le connaissaient, le croyaient, savaient à quelle porte attendre. Voyez, ils savaient d'où il venait. Il y avait une grande attente. Mais vous savez, il n'y en eut pas beaucoup qui le virent. Voyez, beaucoup ne le virent pas. Il en est ainsi aujourd'hui. Certains disaient, c'est un homme bon. Oh, il n'est pas si mal, comme Napoléon, Washington. C'était un homme bon. Mais pour enseigner, non, non. Certains disaient, oh, c'est un homme bon. Oh, il est juste un peu embrouillé, c'est tout. C'est un brave type. Personne n'a rien à redire contre lui. D'autres disaient, non, c'est un démon. Je peux vous dire ces histoires de lecture de pensée et tout le reste. C'est de la fausse prophétie. c'est contraire à notre credo. Ne croyez pas une chose pareille. Et l'autre disait, gloire à Dieu, c'est Dieu, je le connais. Voyez-vous, il l'attendait. Or, c'est exactement ainsi que nous sommes aujourd'hui. La même chose, la parole ointe pour cette heure, l'âge de l'église de la Odyssée.
Amen.
Maintenant, nous allons terminer en disant ceci, juste un instant. Trois groupes l'attendaient. Il en est de même aujourd'hui. C'est vrai, trois. Remarquez, les croyants jubilaient. Vous voyez, son ministère avait fait que certains l'aimaient, d'autres le haïssaient, un autre groupe se posait des questions. Vous voyez, son ministère, laissez-moi répéter cela encore une fois, son ministère, quel qu'il fût, nous savons maintenant que c'était la parole. Mais son ministère avait amené certaines personnes à l'aimer. Ils étaient prédestinés à ça. Vous voyez, ils le crurent, ils le virent. Il n'y avait plus, lorsque Nathanaël vint et que Jésus lui dit ce qu'il faisait, il dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, il n'y a pas de doute dans mon esprit. » Simon qui se tenait là dit, « Oh André, je ne veux pas aller, j'ai déjà entendu toutes ces histoires avant. » Mais dit André, « Tu devrais venir, viens juste une fois avec moi. » Et pendant qu'il était là-bas, Jésus lui fait venir, vous savez, et lui dit, « Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. » Il n'y eut alors plus de doute, vous voyez, tout était là. Ils étaient là, ils crurent, ils virent, ils savaient que c'était ce que le Messie était censé faire lorsqu'il viendrait. Il devait être un prophète, car Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Et cela faisait 400 ans que ces gens étaient embrouillés pour avoir été sans prophète. À chaque âge, il fallait un prophète pour redresser cela. Et voilà qu'ils se tenaient là. Cela ne leur posait pas de problème. Ils attendaient là, des palmes à la main. Il va arriver dans un moment. Ils attendaient. Toute la ville était tendue. On disait, il y a un groupe de fanatiques réunis là-bas à la porte. Un autre disait, je me demande ce qu'il fera lorsqu'il viendra ici. Vous savez, je crois vraiment que c'est un truqueur. Je crois qu'il y a une patte de lapin dont il se frotte l'oreille, vous savez, ou quelque chose comme cela. Vous savez, comme on dit aujourd'hui, oh, c'est une espèce de télépathie mentale. C'est quelque chose, ils peuvent tout expliquer. Un autre dit, c'est un démon, restez de ce côté-ci de la ville. N'ayez pas affaire avec cela, ne collaborez pas à cette réunion. N'est surtout pas là-bas, voyez. Nous ne voulons pas avoir affaire avec ça. Trois classes de gens. Maintenant observez, le voici qui entre dans la ville à cheval. Exactement ce que la parole disait qu'il ferait. À cheval sur un petit âne, entrant dans la ville. Ceux qui ne regardaient pas au credo, qui ne regardaient pas au temple, qui ne regardaient pas à toutes ces autres choses, qui ne regardaient pas aux prêtres ce qu'il disait, ceux qui le croyaient étaient là, debout, des palmes à la main. Ils attendaient simplement le premier mouvement. On ne les entendit jamais dire « Qui vient ?» Oh non, ils savaient qu'ils venaient. Ils savaient ce que la parole disait. Voyez. Et l'autre classe, vous les voyez là, dans la ville. Et lorsqu'ils entendirent ce bruit, « Hosanna au roi ! Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! Hosanna !» Et tous les cris. Les prêtres sortirent en courant pour voir quelle était la raison de cette agitation religieuse. Et les gens disaient, « Qui est-ce ? » Pourquoi était-il là, mes amis ? Une fête religieuse. Le Dieu même qui leur avait prescrit cette fête, leur avait dit que c'est de cette façon qu'il viendrait. Elle criait, qui est-ce? Les temps n'ont pas changé. Les gens sont faits comme avant. Hébreux 13,8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Amen.
Maintenant, je vais terminer en disant ceci. La question n'est plus pour eux. Ils demandèrent qui est-ce. Mais en 1964, la question est, qui dites-vous que c'est? Qu'est-ce que tout cela signifie? Vous êtes-vous arrêté pour sonder les Écritures? Qui pensez-vous que c'est? Est-ce la télépathie mentale? Est-ce quelque chose d'extravagant sorti du désert quelque part? Comme on disait, Jean était un sauvage qui noyait les gens dans l'eau là-bas. Pourtant, Ésaïe dit qu'il serait là comme précurseur. Malachie a dit qu'il serait là exactement. Les prophètes ont dit, ce prophète se lèvera là-bas pour préparer sa venue. Et il était là. On disait, c'est un sauvage, restez loin de lui, vous voyez. N'ayez pas affaire avec lui. Et voici que vient le Messie, exactement comme les Écritures l'annonçaient. Il entrera dans la ville, monté sur le petit d'une ânesse. Doux et humble, il entrera dans la ville sur le petit d'une ânesse, afin que les Écritures s'accomplissent. Et voilà que le peuple est à nouveau à une fête religieuse, comme Balaam, à une fête religieuse en train de dire, qui est-ce? Et aujourd'hui, mes amis, les Écritures promises pour cette heure s'accomplissent au milieu de nous, heure après heure. Qui pensez-vous que c'est? Méditons là-dessus alors que nous inclinons nos têtes. Ô Dieu bien-aimé, nous pensons tous à cela sérieusement, profondément, parce que c'est ce que nous devons faire. Cela se trouve sur nos bras, Seigneur. Nous te voyons, toi le grand roi. Nous voyons ta promesse de la parole. Nous attendions ceci depuis des années, la venue du temps glorieux que nous vivons maintenant. Nous voyons ta parole ointe dans ton peuple qui la vit exactement comme tu as dit que cela arriverait. Nous voyons le groupe de Satan oint là-bas et nous l'avons montré à travers la nation en prenant la parole d'un bout à l'autre de manière qu'il ne reste de pierre qui n'était remuée. Je ne sais pas qui tu as destiné à la vie, Seigneur. Ce n'est pas mon affaire de le savoir, c'est ton affaire. Mais c'est mon affaire de remuer chaque pierre. Ô Dieu, viens à mon aide. Aide les autres hommes qui le croient. Remue chaque pierre, Seigneur, afin que rien de ce que tu as ordonné ne reste sans l'avoir entendu. Nous désirons voir ta venue en notre génération, Seigneur. Nous le croyons. Nous croyons qu'il y aura un nouveau jour des rameaux, un vendredi saint et un jour des rameaux. Une crucifixion pour ton Église, mais notre triomphe lorsque tu viendras à cheval. Nous te prions, Dieu, de bénir ton peuple aujourd'hui. Bénis cette petite Église, bénis ce cher pasteur et son fils ici, frère Outlaw et son fils. Tous les deux, Jimmy, père et fils, bénis chacun ici. Ô Dieu, puissions-nous ne jamais venir ici ce matin? Puissais-je ne jamais venir en voiture de Tucson, simplement pour, si j'ai eu le privilège de parler à quelques personnes, Seigneur, ce n'est pas pour glorifier autre chose que cette personne dont les gens se demandent l'identité. Ils savent que l'homme ne peut faire ceci. Ils savent que la connaissance de ces choses dépasse l'homme. Mais les gens disent, qu'est-ce? Seigneur, nous savons que c'est toi, c'est Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Je viens de Dieu, je vais à Dieu. Et nous voyons la grande colonne de feu au milieu de nous, Seigneur, la même qu'ils virent dans la première partie de la Bible avec Moïse. Nous l'avons vue au milieu de la Bible, lorsque Paul était sur le chemin de Damas. Nous la voyons. Maintenant ici, nous la voyons à nouveau au temps de la fin. Toi est une confirmation. Tel a été le message chaque fois. Ô Dieu, puissent les hommes et les femmes ne plus s'accrocher aux traditions, aux credos. Mais puissent-ils sortir de cela, donner leur vie complètement à Dieu et croire. Ne pas faire confiance simplement à des théories et des choses humaines, mais faire confiance au Dieu vivant. Pendant que se déroulent ces vacances, le cri continue d'être, qui est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce que cela signifie? Les gens religieux disent la même chose, et c'est le même Seigneur Jésus, fait chair dans son peuple, oignant sa parole pour l'épouse, et ne peuvent le comprendre. Ils sont tous si enfoncés dans l'Odyssée qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Ainsi, maintenant, nous l'attendons, Seigneur. Viens, Seigneur, bénis chacun. Gardez vos têtes inclinées maintenant, vos cœurs également. Vous croyez que ceci est la vérité? Oui, levez simplement la main, dites, je crois vraiment que c'est la vérité, que nous vivons dans les derniers jours. Nous sommes ici maintenant, et je crois que nous sommes tellement déformés. Vous étiez à la réunion l'autre jour où j'ai parlé du blé, de la tige. Remarquez, nous n'avons pas eu d'organisation pour faire suite à cela. J'ai toujours été avec votre pasteur, année après année. Habituellement, 2 ou 3 ans, et c'est organisé. Cela ne s'est pas organisé cette fois, ce n'est pas possible. La balle s'est retirée, mais il n'y a plus d'autre avancement. Le blé, le ministère est redevenu exactement ce qu'il était au commencement. C'est Jésus-Christ parmi nous, mes amis, pas un homme, mais l'homme Jésus-Christ, qui vit en vous et désire être une partie de vous, et vous une partie de lui. Ne voulez-vous pas le recevoir aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'ait pas encore reçu le baptême de l'Esprit? Maintenant vous dites, frère Branham, je vous dirai que j'ai crié une fois. C'est très bien. J'ai une fois parlé en langue. C'est très bien également, mais ce n'est pas encore ce dont je parle. Comment pouvez-vous crier, parler en langue et nier la parole? L'évidence du Saint-Esprit, c'est de croire sa parole. Ça a toujours été dans chaque âge, si vous pouvez recevoir la parole. Ces prêtres surpassaient Jésus d'un million de kilomètres pour ce qui en est des fruits de l'esprit, gentils, paisibles, doux et humbles. Lui mit en pièces les églises, les renversa, bouleversa les gens et les appela des serpents dans l'herbe, etc. Vous voyez, mais il était cette parole. Il était cette parole. C'est ça. Croyez Dieu. Dieu est la parole. Croyez-la. Si vous n'avez encore jamais reçu le baptême chrétien, il y a un bassin ici. Si vous n'avez encore jamais reçu le vrai Saint-Esprit, qui vous fait savoir que toute parole de Dieu est la vérité, qui vous fait dire Amen à elle et la croire de tout votre cœur, alors vous pouvez le recevoir ce matin. Ensuite, vous ne vous demanderez pas qui est celui qui fait agir les gens de cette manière. Vous saurez ce que c'est. Si vous n'avez pas fait cette expérience, voulez-vous dire, frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière et je lèverai ma main et dites, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, vous, Dieu vous bénisse, c'est bien, Dieu vous bénisse, bien. Oh Dieu, pendant que la musique joue doucement, oh il est merveilleux, assurément conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Je te prie de le donner à ces gens, Seigneur. Je ne peux que prier, c'est tout ce que je sais faire, demander pour eux. Ils ont levé la main. Je fais ce que je leur ai promis, je prie pour que tu leur accordes cette grande expérience. Pas simplement une espèce d'émotion, mais une expérience réelle. Rencontrer Dieu comme Moïse le fit, là-bas dans la gloire de la Shekinah. Et non seulement cela, mais ne jamais se détourner de cette parole, marcher avec elle tout droit jusque dans la terre promise. Oh Dieu, accorde-la à chacun ce matin. Il y a des malades parmi nous aujourd'hui. Oh Dieu, nous te prions de les guérir.
Amen.
Guéris chaque malade, tous ceux qui sont dans le besoin, accorde le Seigneur.
Amen.
Ils sont à toi maintenant, je te les donne au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je suis désolé. Je suis ici depuis 2 heures. Mais regardez, vous avez toute la soirée. Vous pouvez rentrer à la maison, récupérer et faire un petit somme. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé du cœur. Je sais que cela paraît étrange. Il y a quelques années, je suis venu ici, à Phoenix, au milieu de vous, guérissant les malades par la prière de la foi. Je ne l'ai jamais expliqué, je ne voulais pas l'expliquer. J'ai simplement observé pour voir ce que les gens allaient faire. J'ai simplement observé les imitations et les autres choses apparaître. Ce fut une grande chose pour moi d'observer cela. Mais maintenant, je viens à vous avec un message que ce signe a confirmé.
Amen.
Qu'a fait l'Église? Non, elle n'est jamais devenue une dénomination. Amen. Quel fut le résultat de ce réveil sur les dénominations, qu'ont-elles fait? Elles sont entrées tout droit dans la Odyssée. Et des millions et des millions et des billions de dollars ont afflué. Elle est devenue grande et riche. Et elle construit des propriétés coûtant des millions de dollars et des choses comme cela. Et pour recevoir le message, ça non. Ils le rejettent. Qu'est-ce? La balle se détachant du blé. Maintenant le blé doit être ainsi pour se trouver en présence du Fils, afin de devenir un grain doré du plein évangile pour le maître. Ne voulez-vous pas le croire? Qui est-ce donc? Qui est-ce? Cela pourrait-il être un homme? Cela pourrait-il être une église? Cela pourrait-il être une dénomination? C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le croyez-vous? Je me demande maintenant si nous pourrions avoir juste quelques instants d'adoration après un message tranchant comme celui-là. Sœur, vous est-il possible de nous donner un accord pour le petit cœur intitulé « Je l'aime »? Connaissez-vous ce vieux cantique? Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut au calvaire froid et sombre. Voulez-vous le chanter avec moi? Vous tous maintenant dans l'adoration, adorez simplement avec moi. Maintenant, souvenez-vous, comme la télévision, il est ici. Réalisez-vous ce que cela signifiait? Pouvez-vous, saisissez-vous la profondeur de cela, ce qu'il fit? Je ne le vois pas, mais il est ici. J'ai un petit récepteur ici, une petite chose qui brille dans mon cœur. Je sais qu'elle le reflète. Il est ici.
Just now.
Now, what you do this
maintenant, je désire que vous fassiez ceci
now,
pendant que nous le fredonnons. Maintenant, nous sommes mélangés quand il s'agit de notre passé. Souvenez-vous, à l'origine, j'étais catholique.
Now,
vous voyez, maintenant, nous sommes un groupe mélangé ici. Nous sommes sortis de toutes ces choses. Nous appartenons à Christ. Nous sommes à lui. Maintenant, pendant que nous chantons ceci, tournons-nous et serrons-nous la main. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Dites simplement, Dieu vous bénisse, frère, Dieu vous bénisse, sœur, pendant que nous faisons cela dans une véritable atmosphère chrétienne. Je crois que Dieu aime être adoré. Ne le croyez-vous pas? Adorez-le. Dieu est un objet d'adoration. Et nous désirons l'adorer. Et comment le faisons-nous? Vous aimez les uns les autres. Vous traitez chacun. Si vous faites à l'un d'eux, c'est à moi que vous le faites. Chantons-le maintenant, tandis que nous nous serrons la main et que nous adorons.
God bless you. Oh,
je me demande, est-ce que ça brûle dans votre cœur? Y a-t-il là quelque chose qui sent vraiment bien? Vous savez, vous sentez comme si vous pouviez le sortir et l'étreindre? Vous sentez-vous ainsi dans votre cœur? Si ce n'est pas le cas, mon ami, faites attention. Vous êtes sur un terrain dangereux. Voyez-vous, s'il n'y a pas là un amour réel, quelque chose comme « je l'aime », pas seulement un chant, mais une réalité. Il m'aima le premier. Où serais-je aujourd'hui? J'ai 55 ans. Ma vie est bientôt terminée. Vous voyez? Et là qui est mon salut, frère Trau, que dites-vous? Vous avez entendu ce témoignage. Sauvé. Sauvé par sa puissance divine. Sauvé vers de nouvelles hauteurs sublimes. La vie est maintenant douce. Ma joie complète, car je suis sauvé. Comment le savez-vous? Mon esprit rend témoignage à sa parole que j'ai passé de la mort à la vie. Merci, cher chrétien. Cela me fait du bien. J'aime venir dans un endroit comme celui-ci. Où vous sentez à la maison, c'est dur pour moi de partir. Je continue à penser en regardant cette pendule et je vois ma fille là qui hoche la tête dans ma direction et regarde en bas comme cela. Et mon fils ici qui dit, qu'attends-tu? Je ne sais pas, j'aime simplement me trouver là. Vous savez, je ne sais pas, j'aime la communion fraternelle. Vous savez, je ne la trouve pas en beaucoup d'endroits. Vous savez cela, de moins en moins. Mais je sais que je me rapproche de là-bas. Vous voyez, et un jour je prêcherai mon dernier sermon. Fermerai la Bible pour la dernière fois, alors je ferai un petit voyage. Venez me visiter une fois lorsque j'y serai. Montez et nous assierons pour l'éternité. Nous parlerons, comme frère Karl disait, nous vivrons éternellement. Maintenant, regardez, mes amis, je vais vous demander quelque chose que j'aimerais que vous fassiez. Maintenant, je vous ai fait sauter votre dîner, vous voyez. Or, frère Outlaw a fait quelque chose il y a un moment. C'est très rare qu'il fasse quelque chose que je n'aime pas. Mais il a recueilli une offrande pour moi, voyez. Je me demande si quelqu'un irait prendre cette offrande là-bas, se tiendra à la porte, et vous allez la prendre, acheter votre dîner avec ça. C'est un cadeau de ma part que je vous retourne. Voyez, faites ça, voyez, ce sera bien. C'est un homme plein de douceur. Je vais nulle part, je ne fais rien sans qu'il cherche à faire quelque chose pour m'aider. C'est sa manière de faire. Il y a des hommes que je crains d'appeler par leur nom, car cela pourrait blesser leur modestie. Il y a un cher frère qui est parti récemment dans la gloire, qui est parti rapidement. Son désir, il savait que j'aimais les bois, c'est pourquoi il voulait m'acheter une Jeep. Je ne voulais pas le laisser faire. Après son départ, sa petite femme voulut le faire, et j'en empêchais. Mais les autres garçons se sont mis ensemble et sont venus ici. Et il y avait un autre frère qui vient à cette église, qui dit, « Frère Branham, je fabrique des véhicules pour le désert, vous savez, des baguilles, ou ce que vous appelez hacks. » Elle dit, « Je veux vous en fabriquer un, je ne le voulais pas. » Et vous savez ce que ces garçons ont fait? Ils en ont fait à la fois une Jeep et un véhicule pour le désert. Je n'en ai jamais vu de pareil. Depuis la réunion à Tucson ce soir-là, ils l'ont conduit dans mon jardin et ont dit, c'est un cadeau des gens de Phoenix. Voyez, ils ne voulurent même pas se l'attribuer à eux-mêmes. Ils dirent simplement, Oh, c'est nous tous ensemble. Voyez-vous, c'est, oh, je sais simplement que si jamais j'arrive au ciel, je vivrai avec des gens comme ça. Cela voulait dire tant de choses pour moi, savez-vous. Quelque chose comme cela, ce petit quelque chose. Cela me fait me sentir ainsi vis-à-vis de frère Outlaw ici. Il dit, eh bien, frère Branham, je venir ici, à un endroit où je puisse simplement manifester mon amour, vous parler et parler de Jésus. Et les gens de, bref, vous savez, qui se ressemblent, vous savez, ils aiment se réunir, parler de choses et d'autres et fraterniser. J'apprécie cela, mais je ne désirais pas l'offrande, frères et sœurs. Mon église me donne un petit salaire de $100 par semaine et je m'en sors bien avec cela. Ainsi, j'apprécie cela. Maintenant, si quelqu'un parmi vous désire acheter son dîner, eh bien, quelqu'un se tiendra là-bas à la porte et vous prendrez votre dîner sur mon compte. Voyez, ce sera bien. J'empêchais plusieurs d'entre vous de dîner. Vous l'aimez? Alors, vous devez m'aimer, parce que je suis une partie de lui. Vous voyez, amen, c'est la raison pour laquelle je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, levons-nous. N'oubliez pas nos prochaines réunions. Chaque fois que vous serez dans la région, souvenez-vous, entrez. Vous êtes toujours les bienvenus. Voulez-vous prier pour moi? Je suis la personne qui a besoin de prière. Voulez-vous prier? Combien réalise le fardeau, ce que je dois faire, les choses qui sont devant moi, et je sais ce qui vient. Vous voyez, je le vois, comme je vois d'autres choses venir, je sais ce qui vient. Voyez, mais ce n'est pas le moment de parler de ça, parlons de ce qui est en train de se passer maintenant, demain prendra soin de lui-même. Vous voyez, voulez-vous prier pour moi? Maintenant, voulez-vous lever la main pour montrer que vous prierez pour moi? Très bien. Dieu vous bénisse maintenant, je vais céder la place à nouveau à votre cher pasteur, frère Jimmy Outlaw. Dieu vous bénisse, frère Outlaw.